Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Et bienvenue dans votre grand journal, l'actualité, la culture, le débat d'idées, bien sûr jusqu'à 20h. Nous sommes en télétravail toujours, mais au plus près de l'info, avec plusieurs questions à la une ce soir. Et d'abord une alerte, celle du professeur émérite en médecine, Claude Gaud. Il veut que le gouvernement évite une erreur dès demain. Maintenir un déconfinement des habitations sans rendre le port du masque obligatoire dès qu'on sort de chez soi. Et il est avec nous en direct à 18h15. Autre dossier de ce dimanche, comment accompagner la rentrée de certains élèves dès mardi. Eh bien, 19h15, je reçois un pédiatre, une directrice d'établissement et la directrice en chef du Petit Quotidien. Tous s'intéressent à cette école anti-coronavirus. 18h40, on va en entendre parler avec Alain Bougrain-Dubourg et le député Éric Coquerel. Une centaine de personnalités qui réclament une relance intégrant la protection des animaux et de l'environnement. 18h50, sur Europe 1, comme chaque week-end, une chanson dans la tête. Ce soir, Fabien Lecoeuvre salue la carrière de Michel Fugain qui fêtera mardi prochain ses 78 ans avec un titre notamment né sur Europe 1. Et puis 19h30, le grand débrief de l'actualité. Je reçois ce soir le président de la région Grand Est, également médecin urgentiste Jean Rottner, le député Nicolas Dupont-Aignan et la spécialiste en communication politique Laetitia Krupa. Voici une partie de votre programme. En attendant, c'est l'info, le journal de 18h avec Fabienne Lemoyle. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
18h, merci d'être avec nous.
Nous serons tous engagés et en capacité d'être réactifs dans les jours qui viennent pour que les choses se déroulent pour le mieux.
Le secrétaire d'État aux transports Gare de l'Est à Paris ce soir. Les transports, gros casse-tête du déconfinement, gros défi, port du masque obligatoire, distance à respecter. Beaucoup de changements pour ceux qui vont se déconfiner pour aller travailler demain en métro, bus ou train.
Demain, le 11 mai, qui marque également la réouverture de la plupart des commerces, les gérants se préparent à accueillir leurs clients en toute sécurité.
On est paré, on s'attend pas à la foule non plus, parce que je pense pas que les gens vont se jeter sur le textile dès le 11 mai, mais on est prêt en tous les cas, et ça nous manque de revoir nos clients.
Deux foyers de contamination en Nouvelle-Aquitaine, dans la Vienne, où tout est parti de la réunion préparatoire pour la rentrée d'un collège. Les premiers résultats des tests sont rassurants. Et si Roland-Garros se jouait sans public à huis clos, il est lancé par la Fédération française de tennis. Et pour Cédric Colling, ce serait mieux que rien.
Ça serait vraiment dommage d'avoir une année blanche. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais en tout cas, ça sera probablement la moins mauvaise.
Et puis une météo qui se corse, deux départements en alerte rouge ce soir, de très fortes pluies attendues, notamment en Gironde et dans les Landes. On fait le point dans un petit quart d'heure avec Valérie Darmon. Voici le sommaire de ce journal, on est ensemble jusqu'à 20h, soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Plus que quelques heures avant le début de la levée du confinement. Après 55 jours, l'heure de la reprise du travail va sonner demain en physique pour de nombreux salariés.
Et qui dit retour au travail, dit retour dans les transports en commun. Immense défi, notamment en Ile-de-France. C'est ce que disait ce matin sur Europe 1 la présidente de la région, qui encore cet après-midi était Gare de l'Est à Paris avec la ministre Elisabeth Borne et le secrétaire d'État aux transports. Immense défi, car les voyageurs vont devoir changer leurs habitudes, Aurélien Fleureau.
Oui, demain, il faudra par exemple être patient, attendre avant de rentrer dans une gare pour prendre un train, un métro ou avant de monter dans un bus. Il y aura plusieurs étapes incontournables. Le port du masque obligatoire partout, dans tous les réseaux. Il faudra ensuite respecter les différents marquages au sol. Les flux dans les couloirs seront différents pour éviter au maximum que les gens se croisent. Dans la plupart des bus, vous ne monterez pas à l'avant, mais plutôt à l'arrière. Et puis en Ile-de-France, il faudra présenter une attestation de votre employeur qui prouve que vous devez prendre les transports en commun. Alors pas de sanction, pas d'amende si vous ne l'avez pas demain ou mardi, mais 135 euros à partir de mercredi. Les flux seront filtrés, les forces de l'ordre vont venir renforcer les équipes de la SNCF et puis de la RATP. Ambiance veillée d'armes dans le secteur des transports tout à l'heure à la gare de l'Est pour constater que tout est en place. Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux transports.
Demain, toutes les équipes de la SNCF, de la RATP, des préfectures de Paris et des régions de la région Île-de-France seront mobilisées pour suivre heure par heure et éventuellement prendre les mesures d'adaptation du dispositif, parce qu'évidemment le dispositif va vivre, le 11 ne sera pas le 12 qui ne sera pas le 13 et nous serons tous engagés et en capacité d'être réactifs dans les jours qui viennent pour que les choses se déroulent pour le mieux.
Et puis deux annonces du gouvernement aujourd'hui. En Ile-de-France, deux voies seront réservées au covoiturage demain sur les autoroutes A1 et A6A. Et puis surtout un décret lance le forfait mobilité durable, soit 400 euros par an pris en charge par les employeurs pour les trajets domicile-travail.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Alors, vous l'avez peut-être entendu sur notre antenne ce matin, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, parle d'un immense défi avec l'afflux attendu demain, afflux de voyageurs dans les transports. Voilà pourquoi elle a lancé un nouvel appel pour que les Franciliens continuent autant que possible le télétravail.
Valérie Pécresse, invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, qui souhaite aussi que l'on porte un masque en Île-de-France dès qu'on sort.
Nous avons commandé effectivement des masques dès que l'État nous a autorisé à le faire. Et la région Île-de-France en a déjà distribué plus de 18 millions. Et depuis quelques semaines, elle en distribue à tous ceux qui, aujourd'hui et au quotidien, continuent de faire fonctionner le pays et doivent se déplacer. Parce que je le dis et je le recommande très fortement, il faut désormais en Île-de-France porter des masques dans l'espace public et pouvoir s'en procurer. Là, Île-de-France Mobilité va, elle, pour les transports en commun, donner un masque tissu lavable plus de 20 fois à tous les abonnés Navigo, de façon à leur donner, là encore, à leur mettre le pied à l'étrier. On va rentrer dans un monde où tout le monde va devoir acheter ses masques. C'est pour ça que dans toutes les gares et dans toutes les stations, nous avons demandé qu'on puisse acheter aussi des masques.
Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, alors qu'aujourd'hui le masque, on le disait, est obligatoire dans les transports, mais pas dans l'espace public.
Ce que revendique le professeur émérite de médecine Claude Gault, qui sera mon invité à 18h15 et qui ajoute qu'un déconfinement, une sortie des habitations sans masque aujourd'hui n'est pas responsable. Tout l'enjeu à partir de demain avec ce déconfinement, justement, ce sera de casser les chaînes de contamination dès l'apparition de nouveaux cas, avec notamment les fameux tests, Fabienne.
Oui, des chaînes de contamination qui peuvent vite créer des foyers, comme on l'a vu ces derniers jours en Nouvelle-Aquitaine, avec deux exemples en Dordogne au sud de Périgueux, cette réunion de famille suite à un enterrement, et puis dans la Vienne, à Chauvigny, après une réunion préparatoire pour la rentrée du collège, quatre personnels de direction de l'établissement contrôlés positifs, d'où la décision du maire de faire des tests à l'ensemble du personnel de toutes les écoles de la ville, avec la menace de reporter la rentrée pour tout le monde. Les résultats viennent de tomber, Théo Manval, ils sont rassurants.
Oui, Fabienne, sur les 71 tests réalisés hier, 65 ont déjà rendu leur verdict et tout cela sont négatifs. Soulagement, vous l'imaginez, pour le maire de Chauvigny, Gérard Herbert.
C'est, on va dire, très rassurant. C'était une course contre la montre depuis hier matin. Moi, ce que je pourrais en conclure, c'est ne faudrait-il pas dépister systématiquement pour cette réouverture d'école qui fait beaucoup de bruit sur le plan national. Je crois qu'il faut en effet rassurer l'ensemble des parents.
Dépister systématiquement tous les enseignants, aide maternelle ou personnel de cantine dans toute la France avant le retour dans les écoles. Voilà donc l'appel de cet élu qui est aussi médecin généraliste. Il trouve un soutien ce soir chez les fédérations de parents dans la Vienne comme au niveau national. Rodrigo Arenas, c'est le coprésident de la FCPE.
C'est ce que nous réclamons depuis le début, parce que la meilleure façon de lutter contre la psychose, qui est loin d'être éloignée de l'esprit des parents, c'est de les rassurer. Et rassurer, c'est évidemment rassurer avant tout les personnels qui vont être en contact des enfants. Ceux qui iront à l'école en tant qu'adultes doivent pouvoir aller sur le lieu de travail sans avoir peur de prendre soin des enfants.
À Chauvigny, la rentrée du collège est d'ores et déjà repoussée au 27 mai prochain. Si les 6 tests encore manquants sont bien, eux aussi négatifs, celle des écoles maternelles et primaires pourra se faire dès mardi.
Et puis en Vendée, ce sont 4 salariés qui ont été testés positifs au Covid-19 dans une entreprise d'agroalimentaire, un abattage de volailles. Une campagne de dépistage est là aussi en cours.
Ce lundi 11 mai va également marquer la réouverture de bon nombre de commerces non alimentaires, notamment les coiffeurs, les libraires. Près de 900 000 personnes sont concernées.
Autant de magasins qui ont dû se préparer pour recevoir leurs clients en toute sécurité. Gel hydroalcoolique, masque. Patrick Zerbib est gérant d'un magasin de vêtements dans le quartier des Batignolles à Paris.
On a du gel qu'on va mettre ici. On va offrir des masques chirurgicaux aux gens qui veulent rentrer sans masque. Donc on a 200 masques déjà qu'on a achetés. On a maximum 2 clientes ensemble. On a condamné la cabine du milieu qui sera fermée. Tout ce que les clientes vont essayer, on va les vaporiser à l'aide de cet appareil à vapeur qui chauffe à plus de 80 degrés. Et on les laissera 24 heures sans les remettre en rayon. On est paré. On ne s'attend pas à la foule non plus, parce que je ne pense pas que les gens vont se jeter sur le textile dès le 11 mai. Mais on est prêt en tous les cas. Ça nous manque de revoir nos clients. On a une boutique de quartier. On veut savoir s'ils vont bien. Puis voilà. Là, le magasin est plein à craquer. On a décidé de faire 50% tout de suite sur l'ensemble de la boutique. Ça nous permettra de dégager une grosse partie du stock qu'on a reçu la veille de la fermeture, et ça nous permettra d'essayer de sauver la saison, parce que 2 mois pleins de chiffre d'affaires en moins, ça nous fait un préjudice important.
Patrick Zerbib, gérant d'un magasin de vêtements qui rouvre demain et qui répondait à Théo Manval.
Voilà pour les commerces, mais qu'en est-il des administrations qui vont elles aussi accueillir de nouveau, plus largement, du public avec ce déconfinement ? Réponse avec Olivier Samin.
Ce n'est pas dès ce lundi 11 mai que vous allez pouvoir vous présenter dans les administrations pour obtenir des renseignements ou pour engager des démarches. Le principe reste, pas d'accueil physique des usagers, hormis sur rendez-vous. Et ces rendez-vous, ils ne pourront être obtenus que pour des situations urgentes, par exemple pour débloquer le dossier d'une personne en situation fragile à la caisse d'allocation familiale, ou pour traiter des sujets compliqués, par exemple dans les centres des impôts, si vous avez un dossier fiscal complexe pour lequel on vous demande d'apporter des pièces que vous ne pouvez pas transmettre par mail. La règle générale, pour la semaine prochaine en tout cas, ça restera donc le contact par téléphone ou par internet via votre espace personnel. Les agences de Pôle emploi, elles, ne rouvriront leurs portes aux chômeurs que la semaine suivante, la semaine du 18 mai, et uniquement sur rendez-vous. L'accueil sans rendez-vous étant limité aux seules situations d'urgence, principalement les problèmes d'indemnisation. D'ici là, la relation avec les conseillers de Pôle emploi se poursuivra par mail sur le site pôle-emploi.fr ou par téléphone au 3949.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Et puis on termine avec cette question pour les férus de tennis, notamment si Roland-Garros, Fabienne Lemoyle, se jouait à huis clos, c'est-à-dire sans public.
Eh bien, c'est la piste avancée ce matin dans le JDD par le président de la Fédération française de tennis, Axel May.
Oui, la thèse d'un Roland-Garros à huis clos prend de l'épaisseur avec ses déclarations de Bernard Giudicelli. Le président de la Fédération française de tennis explique certes n'écarter aucune option, tant le manque de visibilité est réel. Mais il ajoute aussitôt qu'organiser le grand chelem parisien sans public permettrait de faire tourner une partie du modèle économique, à savoir les droits et les partenariats. Jean-François Pérez a joint l'ancien joueur, Cédric Pioline.
Ce qui est vraiment le plus important, c'est que l'écosystème reparte. La machine se relance maintenant si la seule et unique et dernière option est de disputer l'édition de Roland-Garros de cette année à huis clos. Je pense à titre personnel que c'est quelque chose qu'il faut faire. Ça serait vraiment dommage d'avoir une année blanche. Je dis pas que c'est la meilleure solution, mais en tout cas, ça sera probablement la moins mauvaise.
Initialement, le tournoi devait se tenir comme chaque année entre fin mai et début juin. Les billets vendus pour ces dates vont être annulés et remboursés, a indiqué il y a 3 jours l'organisateur, comme s'il préparait déjà les esprits à un Roland-Garros 2020 à huis clos, une édition qui a pour l'instant été reportée à fin septembre.
Axel May du service des sports d'Europe 1.
Merci Fabienne Lemoyle pour le journal. On vous retrouve samedi midi pour l'info et pour tout terrain. Bonne semaine Fabienne et à très bientôt. On reste dans l'univers sportif car Lionel Rosso, vous nous retrouvez à 20h. Petit avant-goût de la soirée. Sport.
Bonsoir Wendy. En effet, au programme dans nos débats, un invité exceptionnel, Gérard Houillet, l'ancien DTN sélectionneur de l'équipe de France de football, entraîneur de Lyon, champion de France et qui est aujourd'hui le conseil de Jean-Michel Aulas. Et vous savez que le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, est l'un des résistants à l'arrêt du championnat en Ligue 1. Eh bien, Gérard Houillet va s'exprimer ce soir. Il va nous proposer quelques pistes de sortie de crise. Il pense que le foot français pourra s'en sortir dans 2 ans.
Bon, c'est pas mal le 10 mai comme date aussi pour vous.
Très belle date.
C'est pas, hein, bon anniversaire. Bon confiné, anniversaire. Cher Lionel Rosso. Voilà. C'est Marlène Duré qui m'a soufflé cette petite information. Merci Lionel. Merci. À tout à l'heure, 20h. Et bon anniversaire à vous. Allez, on fait un point météo sur cette météo agitée, Valérie Darmon. Météo France qui multiplie les vigilances orange pour orage et pour pluie inondation. On a 2 départements en rouge désormais, les Landes et la Gironde. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. 25 départements en orange, 2 en rouge, rouge pour la pluie. Et c'est la durée de ces pluies soutenues ainsi que leur domaine géographique assez étendu qui font de cet événement un événement exceptionnel. En plus des départements placés depuis ce matin en vigilance orange, hein, c'est-à-dire ceux du sud-ouest, depuis les Pyrénées jusqu'aux Charentes, jusqu'au Tarn, bassin parisien, Oise, de l'Indre-et-Loire au Loiret, Bourgogne, Franche-Comté et Midi-Toulousain ont été rajoutés cet après-midi. Alors, sur l'ouest de la Gascogne, au Bordelais, il est probable que les cumuls atteignent l'équivalent d'1 à 2 mois de précipitation en moins de 36 heures, du jamais vu depuis près de 50 ans, voire plus. Météo France parle carrément d'une centaine d'années, d'où la vigilance rouge pour la Gironde et pour les Landes. Sur la région Centre-Val de Loire, les orages les plus forts sont prévus ce soir, accentuant le risque de crue. Sur le bassin parisien, le temps vire en ce moment aux gros orages comme hier, de manière assez hétérogène d'un endroit à un autre. Et en cours de nuit, ils seront plus concentrés sur les l'Essonne et le sud de la Seine-et-Marne. Et puis enfin, Bourgogne et Franche-Comté, eh bien en cours de soirée, les orages vont faire place à des pluies orageuses durables qui gagneront en intensité la nuit prochaine jusqu'en matinée de demain. Ces pluies ne faibliront qu'en début d'après-midi, donc de demain lundi, avant de s'évacuer totalement le soir en direction de la Suisse.
Valérie Darmon qui suit la situation, on refait un petit point vers 18h30 sur Europe 1.
Et jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir avec vous, Wendy Bouchard, à suivre.
Et bien face au défi du déconfinement, cette question, cette réflexion, faudrait-il porter un masque lorsque nous sortons de chez nous et même si notre mère ne nous y oblige pas? Le professeur de médecine émérite Claude Gau répond aux comportements si différents que nous observons en ce moment dans l'espace public. A tout de suite.
18h16, nous sommes avec Wendy Bouchard pour le grand journal du soir et à la veille d'un déconfinement progressif, quel comportement adopter pour éviter de propager le virus?
C'est bien la question centrale, apprendre à vivre avec le Covid-19, comme nous disait hier le docteur Raphaël Pitty, en prenant les précautions nécessaires, ce qui nous amène à parler, à reparler du masque ce soir. Bonsoir Claude Gau.
Bonsoir.
Vous êtes monsieur professeur émérite de médecine et en dehors de vos savoirs, vous observez. Et vous observez comme nous en ce moment le comportement des Français. Sur un même trottoir aujourd'hui, à quelques mètres de distance, on voit des citoyens masqués, parfois gantés, et puis d'autres qui ne portent absolument aucune protection et qui ne feront pas différemment demain. Est-ce qu'en période de crise, on peut avoir pour vous des comportements aussi différents dans l'espace public?
Non, je crois que c'est une erreur. Il fallait avoir une attitude qui va permettre de compenser en grande partie les effets du déconfinement. Donc on devait garder cette seconde protection et même la créer avant de faire le déconfinement. Et là, on va se trouver dans des inégalités. Et c'est pas une bonne chose parce que ça veut dire qu'on dévalorise le rôle de ces protections, alors qu'au contraire, on doit les favoriser et expliquer que c'est cela qui va permettre de reprendre une vie plus rapidement normale parce que on aura ajouté une protection supplémentaire. Donc vouloir en même temps déconfiner, ne pas faire l'obligation sauf dans les trains, c'est ridicule à mes yeux, c'est ne pas se comporter de façon responsable et de façon logique. C'est absolument... Mais vraiment, c'est une erreur évidente de vouloir différencier les comportements et les gens qui ne mettront pas les protections seront les plus dangereux. Ce seront ceux qui ne se préoccupent pas de la sécurité des autres ni de leur propre sécurité. On aura donc un double effet désagréable, dangereux avec de telles mesures.
Oui, et c'est ce que vous dites, une inégalité de fait entre les citoyens, ceux qui se protègent et qui protègent les autres en mettant des masques, et puis les autres qui vivront leur vie. Alors qu'on a eu un discours, mais ça fait 2 mois qu'on en parle, sauf que la question se repose de manière brûlante ce soir, à la veille de ce déconfinement, Claude Gau, qui nous disait nous ne savons pas porter les masques, nous ne savons pas les mettre, leur efficacité n'est pas prouvée. Comment aujourd'hui corriger ce discours-là pour faire en sorte que, de manière responsable, chaque citoyen, qui ait un discours politique ou pas, mette ses masques?
Je pense que le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé dans les pays de l'Extrême-Orient qui ont eu les meilleurs résultats. Quand on voit ce qui s'est passé à Taïwan ou en Corée du Sud, il y a eu des gens qui, dès le début, ont vu que si on associait les deux modes de protection, on avait une protection maximale. Mmh. Et là, on est en train de se dire, oh, on peut enlever les deux protections en même temps, c'est-à-dire enlever le confinement et ne pas remettre quelque chose à la place, alors qu'on est capable de le faire et qu'actuellement, il n'y a plus la moindre discussion sur l'efficacité des masques. Quand on voit ce qui s'est passé avec le travail dans les hôpitaux, des infirmières, des médecins, beaucoup ont été touchés par le virus, mais ça reste une proportion faible parce qu'ils avaient des protections. On doit donc tenir compte de ce qui s'est passé ailleurs au lieu de vouloir prendre une mesure originale où on ne ferait cela que pour les trains et on ne le ferait pas quand on va dans la rue et que l'on fait des courses et que l'on se déplace finalement avec une capacité de tousser, d'envoyer des... Et même sans envoyer des postillons, on sait qu'on peut avoir des gens qui n'ont aucun symptôme et qui pourtant vont être dangereux s'ils ne sont pas avec un masque qui protège autant les autres qu'eux-mêmes.
Bien sûr. Professeur Claude Gault, j'ai été très sensible à la tribune que vous avez écrite et diffusée dans le journal du dimanche aujourd'hui, où vous dites que la gestion de la crise n'a pas été nulle, mais qu'il y a eu des erreurs à certaines étapes importantes de la crise, et on focalise évidemment sur le problème des masques. D'abord, le problème des stocks, la pénurie de masques, puis ce discours sur leur inefficacité ou le fait qu'ils ne soient pas, obligatoires. Comment vous expliquez pour demain, notamment, cette lacune de l'exécutif? Alors qu'un certain nombre de maires ont pris des arrêtés dans leur commune obligeant à ce port du masque dans l'espace public. Qu'il y a donc des initiatives qui fleurissent un petit peu partout, et on entendait à l'instant sur cette même question la posture de Valérie Pécresse qui le souhaite également pour l'Île-de-France.
Oui, mais je crois que maintenant on voit de façon extrêmement simple, claire, ce qui s'est passé avec cette faute qui a été de dire le masque n'est pas une bonne réponse pour le grand public, il ne peut être porté en permanence. Vous vous rendez compte, il ne peut être porté en permanence. On a eu des gens dans des hôpitaux qui les ont portés 12 heures, 15 heures.
Mais ils n'avaient pas le choix.
Et là, ajouté, il n'y avait pas d'indication sans contact rapproché et prolongé avec un malade, c'est faux. Et deux semaines après, on dit que les postillons sont dangereux. Donc on voit qu'il y a eu, c'est plus qu'une faute, c'est vraiment un mensonge qui est profondément anormal, alors qu'on voulait en gros camoufler l'incapacité d'avoir entre janvier et février ou début mars produit en grande quantité, car on aurait pu le faire, il y aurait eu à ce moment-là une prise de conscience que réellement ces masques c'était favorable, c'était de la bonne protection, et on aurait pu, en les rendant obligatoires maintenant au moment de la fin du confinement, on aurait eu une proportion de protection importante qui aurait favorisé finalement le passage dans les semaines actuelles qui vont être en partie l'inconnu, parce que justement on n'aura pas utilisé cette protection supplémentaire.
Et qu'on le porte mal ou très bien, cette protection en est déjà une, j'allais dire, Claude Gault, parce qu'il y a beaucoup d'arguments qui fleurissent aussi en disant, bah oui, mais si vous portez le masque sur le menton par exemple, si vous ne le lavez pas suffisamment, ces masques n'ont plus aucune utilité. C'est tout de même une barrière, et ça vous souhaitez le redire sur l'antenne d'Europe 1 ce soir?
Oui, parce que ce qui est tout de même extraordinaire, c'est d'imaginer que les gens sont complètement débiles au point de ne pas comprendre les 3 ou 4 points importants concernant l'usage des masques.
Il aurait fallu peut-être le marteler davantage de manière pédagogique.
Il y a un endroit où il faut se méfier pour ne pas les mettre à l'envers parce qu'il y a une petite pince qui permet de le mettre sur le nez. Il ne faut pas faire comme le font beaucoup de gens qui veulent se parler, et au moment où ils se parlent, ils enlèvent ou ils abaissent leur masque, en gros, comme si on avait besoin qu'ils fassent cela pour exister, alors qu'au contraire, ils doivent garder leur masque en bonne position pour montrer qu'ils sont responsables, compétents, ils savent comment on met un masque, comment on le prend par ses attaches latéralement, et puis qu'on doit, à un moment donné, le changer. On a un apprentissage à faire, mais qui est ridiculement simple. Donc, utiliser des arguments du type de ceux qui ont été utilisés, à mes yeux, ça déshonore ceux qui les produisent.
Vous ajoutez dans cette tribune au JDD, j'en terminerai là, Claude Gault, les cartes produites quotidiennement n'indiquent pas la proportion de masques par département. Et vous dites, cette absence exprime une forme de débilité sociale qui ne souhaite pas faire de différence entre l'Élysée et un deux pièces de 20 mètres carrés. Vous pouvez nous expliquer?
C'est une des notions importantes. On a été dans cette vraiment situation difficile, confronté à des inégalités majeures. Il y a des gens qui sont à 2, 3, 4 avec des enfants, parfois dans des surfaces de 20 mètres carrés. Et on entend dire qu'il pourrait y avoir, quand on va instaurer, c'est une des mesures importantes qui aurait dû être prise et qui l'est tardivement, quand on va rechercher toutes les personnes qui ont été au contact de quelqu'un touché par le virus. Et quand on nous dit que ce sera possible de laisser une partie de cette population à l'intérieur d'un groupe qui peut être assez varié, eh bien, il faut avoir la certitude que la seule bonne méthode, c'est d'avoir dans des hôtels qui actuellement sont vides, la possibilité de mettre pendant 12-14 jours des personnes sans les confronter à leurs proches qui ne sont pas toujours, au moment où eux sont contaminés, les gens qui sont chez eux, leurs proches, peuvent tout à fait ne pas l'être. Donc on voit que là, il y a la notion qui est très importante que quand on a un certain volume dans un appartement et quand on a un jardin, comme j'en ai un de 3000 mètres carrés, le risque n'est pas le même. La difficulté de vivre dans un endroit n'est pas le même et il y a beaucoup moins de raisons qui sont de bonnes raisons de sortir quand on est dans des conditions aussi défavorables. Or, en plus, on sait que dans ces zones où les conditions de vie sont difficiles, c'est là où on a des gens qui ont moins de formation. Et on sait depuis longtemps en santé publique que la mortalité, les maladies sont beaucoup plus graves, importantes chez des gens qui n'ont pas eu de formation, qui est en gros avoir eu 5, 6, 10 années d'études après leurs premières années. Ces faits-là sont connus et vraiment créer de l'inégalité avec des comportements qui font qu'il y a des gens qui ont une réflexion, une compétence, un respect des autres et qui vont mettre un masque et d'autres qui auront en gros toutes les déficiences qui les rendront plus dangereux, c'est véritablement de la mauvaise politique.
Claude Gault, professeur émérite de médecine, je rappelle que vous avez travaillé sur tous les grands risques sanitaires de ces dernières années, que votre parole porte, j'étais ravie de vous accueillir ce soir sur Europe 1 pour en parler en cette veille de déconfinement. Merci monsieur.
Merci.
À 18h27, le grand journal du soir se poursuit avec un autre éclairage. Wendy, comment l'hôpital s'apprête à vivre le déconfinement? Comment continuer à assurer la plus grande sécurité sanitaire?
Oui, cela fait partie, Marlène, des enjeux du moment, alors que les services d'urgence, notamment, ont dû affronter l'arrivée de malades atteints du Covid-19 ces dernières semaines. J'accueille ce soir le docteur Simon Marmor. Bonsoir.
Bonsoir Wendy Bouchard.
Vous qui êtes directeur médical du groupe hospitalier Diaconesse Croix-Saint-Simon, c'est dans l'Est parisien. Comme la plupart des établissements, vous avez dû déprogrammer les soins, les opérations qui n'étaient pas urgentes, et puis vous avez sécurisé l'accueil de patients qu'il vous fallait suivre, notamment pour les traitements anti-cancer. Est-ce que la plupart des soins vont être reprogrammés progressivement à partir de demain, docteur?
Alors, en premier lieu, l'hôpital n'a jamais vraiment arrêté son activité. Elle s'est d'abord transformée. On a déprogrammer tous les soins non urgents, qu'il s'agisse d'hospitalisation, de consultation ou d'intervention. Et on a préservé tout ce qui paraissait urgent ou semi-urgent, et en particulier les pathologies cancérologiques qui ont continué à être prises en charge, même si certaines interventions ont été décalées ou certaines chimiothérapies ont été reportées de quelques jours.
En tout cas, vous allez devoir évoluer avec vos équipes dans un contexte particulier où, à partir de demain, des patients pourront potentiellement croiser des patients atteints du Covid. Là, vous allez être rodé à cet exercice. L'organisation est en marche pour cela?
Oui, l'organisation est en marche depuis déjà presque 8 semaines maintenant. Oui. Dès le début du confinement, l'hôpital s'est complètement transformé pour accueillir 2 flux de patients, des patients atteints par le Covid, très nombreux initialement, et qui sont de moins en moins nombreux depuis une dizaine de jours, et en parallèle, des patients non atteints du Covid qui devaient avoir des soins. Donc on a transformé l'hôpital, les équipes, les flux, pour accueillir ces 2 types de populations dans un environnement le plus sécurisé, qui consiste en fait à considérer que tout le monde est atteint du Covid jusqu'à preuve du contraire. Oui. Et donc les mesures de sécurisation sont maximales, tant pour le personnel qui travaille dans nos locaux que pour les patients. Et on a appliqué 5 types de mesures. Tout d'abord, la distanciation sociale, telle qu'on la connaît pour la vie civile, elle est rigoureusement appliquée dans l'hôpital, avec un espacement dans les salles d'attente ou du nombre de consultants qui est moins important qu'auparavant. On impose le port de masque à tous les entrants dans l'hôpital, qu'ils soient des professionnels de santé ou des patients. On impose le lavage des mains à l'entrée de l'hôpital. Et puis on propose de façon privilégiée des chambres au sol pour éviter des contaminations croisées. Et puis dernière mesure, on propose de réaliser un test du Covid, ce qu'on appelle une PCR, à tous les patients qui vont être hospitalisés dans l'hôpital, afin de dépister les patients possiblement positifs, de reporter les soins s'ils sont reportables et dans le cas contraire d'adapter la sécurisation de l'espace, c'est-à-dire son isolement oui. Et sa prise en charge au bloc opératoire si nécessaire.
Très bien, docteur Simon Marmor, vous le disiez, l'hôpital n'a jamais cessé de fonctionner, évidemment, d'accueillir les patients, mais la PHP a diffusé des chiffres il y a 15 jours sur la baisse de fréquentation aux urgences. C'est une baisse que vous avez constatée également dans votre établissement ?
Alors tout à fait. D'ailleurs, toutes les régions les plus touchées par le Covid ont vu une baisse très significative de la fréquentation, de l'ordre de 50% de passages en moins dans notre établissement.
Ça veut dire que les gens ont eu peur de venir à l'hôpital ?
Alors sans doute. Et en même temps, on a eu des malades plus graves, souvent atteints du Covid initialement, et puis maintenant on voit réapparaître des patients non atteints du Covid avec des pathologies qui ont trop traîné, mais on a vu aussi disparaître la bobologie, c'est-à-dire des patients qui de façon générale n'avaient pas besoin de venir aux urgences et qui donc ont été traités par d'autres moyens, peut-être par leur médecin généraliste.
Oui.
Une attitude qu'on devrait voir pérenniser dans le temps, qu'on pourrait l'espérer.
Comme directeur médical, et j'en terminerai là, vous avez piloté les cellules de crise au cœur de l'épidémie, vous avez participé à toutes les discussions avec l'ARS. Dans quel état d'esprit vous entamez la suite à partir de demain, ce déconfinement avec toutes les craintes d'une deuxième vague ?
Écoutez, il se veut d'être optimiste. Avant toute chose, l'ARS a fait un travail de coordination tout à fait remarquable sur la région Île-de-France. On a pu profiter d'une semaine d'avance par rapport au Grand Est qui avait été atteint en premier.
Oui.
Et donc la coordination régionale s'est mise en place avec une cohésion des trois secteurs d'hospitalisation, que ce soit le public, le privé ou comme nous, les établissements privés non lucratifs. Et donc tout le monde a travaillé de façon extrêmement harmonieuse. Avec ce déconfinement et cette adaptation de l'offre de soins, on essaie de garder la même directive, la même cohésion pour pas qu'il y ait d'activité en ordre dispersé. Et la reprise doit considérer un dilemme, en fait, qui est à la fois d'assurer les soins courants et être capable de faire face à une éventuelle deuxième vague. Mmh. Et donc, on doit être capable de réarmer à tout moment des réanimations qui avaient été créées il y a quelques semaines et qui commencent à se vider. On doit être capable de remobiliser le personnel dont la mobilisation force le respect dans cette capacité à avoir été sur le champ de bataille, hein, puisque ça ressemblait à ça sur les premières semaines.
Bien sûr.
Et donc, on doit être capable de mener à la fois les soins courants, et il faut absolument que les patients reviennent vers les hôpitaux, parce que tous les soins qui n'ont pas été faits depuis ces deux mois de confinement ne seront probablement pas récupérés. Il y a une énorme préoccupation pour l'avenir économique du pays. Je pense qu'il doit aussi y avoir une préoccupation sur l'avenir sanitaire. Les soins non faits se payeront peut-être en qualité de vie ou en espérance de vie tout court dans quelques années.
Merci pour cet état des lieux et voilà cette adresse aussi aux auditeurs qui auraient reporté leurs soins. Le docteur Simon Marmor était avec nous, directeur médical du groupe hospitalier Diaconès Croix-Saint-Simon dans l'Est parisien. Merci beaucoup.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Wendy Bouchard, c'est le grand journal du soir sur Europe 1.
Et l'essentiel de l'actualité, si vous nous rejoignez. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Un nouveau bilan très encourageant avant le déconfinement. 70 morts en 24 heures en France. Le plus faible quotidien depuis la mi-mars et le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Les appels à la vigilance se multiplient alors que de nouveaux foyers épidémiques sont détectés. Après la Dordogne et la Vienne, une campagne de dépistage est lancée en Vendée où 4 employés d'une entreprise de l'agroalimentaire ont été testés positifs. Le retour d'une partie des enfants à l'école mardi, Jean-Michel Blanquer annonce que 85% des écoles vont rouvrir. Le ministre de l'Éducation espère que tous les enfants soient retournés au moins une fois dans leur établissement d'ici à la fin du mois de mai. L'Espagne entre demain dans une nouvelle période de déconfinement. Seuls Madrid et Barcelone resteront à l'écart de cette phase et le spectre d'une deuxième vague de contamination en Asie. Un cas de Covid-19 a été détecté à Wuhan en Chine, le premier depuis plus d'un mois. La Corée du Sud voit également le virus ressurgir alors que sa progression était stoppée. Séoul a dû ordonner hier la fermeture des bars et des discothèques.
Sophie Tussaud qui nous informera à 19h sur Europe 1. Valérie Darmon à la une, ses vigilances orages activées en rouge, pluie, inondation, les Landes et la Gironde.
Et oui, et du orange pour pluie inondation toujours, des Charentes-Maritimes jusqu'aux Pyrénées, Tarn, Gers, Lot-et-Garonne, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret. On a ajouté l'Aube, la Haute-Marne, les Vosges, Lyon, la Côte d'Or, la Haute-Saône et toujours le bassin parisien. 25 départements orange, 2 en rouge. La situation pluie orageuse très active en cette fin d'après-midi persiste jusqu'à demain mi-journée et va donner des cumuls de pluie exceptionnels dans le sud-ouest avec des crues importantes attendues sur les cours d'eau de Gascogne, d'autant que les coefficients de marée sont très élevés.
Merci Valérie Darmon, à tout à l'heure 19h15 pour faire le point.
Et comme tous les dimanches après la météo de 18h30, elle nous rejoint, c'est Naïma Benchemann, Wendy.
Bonsoir Naïma.
Bonsoir Wendy.
Et vous qui avez rencontré un artiste de street art, notamment reconnu pour ses collages photographiques, il a été très actif pendant le confinement, il s'agit de...
J.R., hein, qui est l'ambassadeur de la culture française le plus connu à travers le monde. Un personnage assez mystérieux derrière ses lunettes noires, avec son chapeau et son appareil photo. Et pourtant, il a déjà parcouru la terre entière et réalisé des miracles. Ce garçon, eh bien, il a la grâce d'un prophète. À 37 ans, il a déjà collé ses photos monumentales en noir et blanc à Paris, Berlin, La Havane, Rio, New Delhi, Jérusalem, en Palestine, à Shanghai ou encore à Los Angeles. En 2011, il sort son documentaire « Woman à Iowa » Rose, où il met les femmes meurtries par la guerre à l'honneur, en braquant son objectif sur celles qu'il appelle sobrement les héroïnes de l'ombre. Il a créé un ballet, fait jouer Robert De Niro dans le film Élise en 2015, co-réalisé un film avec Agnès Varda, Visage Village, primé par l'œil d'or du meilleur documentaire au Festival de Cannes en 2017. Bref, JR, c'est un artiste inspiré, il prône un art engageant, pas engagé, et c'est naturellement que la crise du Covid-19 lui a donné une nouvelle fois une idée, servir des repas pour les plus démunis à Paris avec son initiative Refettorio. Et la magie de l'art, eh bien ça marche.
Refettorio, vous allez nous expliquer, qu'a-t-il fait hier?
Eh bien il a livré 42 600 repas pendant le confinement, vous imaginez? 4000 repas par jour, bravo, à Paris, avec des restaurants très prestigieux qui ont joué le jeu, et puis d'autres aussi, comme le Frenchie, le Chalet du Lac, le Molitor, le Crillon, le Bistrot d'à côté.
Parce que ses projets étaient gelés par le confinement et donc il a mobilisé son équipe d'artistes.
Absolument.
Pour être utile. Oui.
Absolument. Il a mobilisé tout son réseau de restaurateurs via Instagram notamment, et la générosité en marche, eh bien, il nous l'explique.
C'est parti très vite. Déjà quelques jours après, on faisait des centaines de repas. Ensuite, on s'est rendu compte que le gros problème, ça allait être les denrées alimentaires. Et c'est là qu'on a eu la grande chance, grâce à Soazic de notre équipe, de rencontrer Thierry Cotillard, qui est le président d'Intermarché. Et lui, il a juste dit, bah, écoutez, je vais faire un truc très simple pour vous. Je vais prendre mon téléphone et je vais appeler mes fournisseurs et on va voir qui veut bien aider. C'est comme ça que c'est parti. On a eu des pâtes, on a eu de l'huile d'olive, on a eu des sardines, on a eu des œufs en chocolat pour Pâques et ainsi de suite. Et tout ça, on les livre à chaque fois au restaurant pour qu'ils cuisinent avec.
JR, depuis le début de votre carrière, vous ne cessez de créer des passerelles et de mettre en avant la culture parce que pour vous, c'est important. Et vous avez déclaré, cette crise du coronavirus sera peut-être une prise de conscience. Et je crois d'ailleurs que vous-même, vous avez eu le coronavirus.
Oui, tout à fait. Moi, je l'ai eu, le coronavirus. Et j'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup de symptômes et que ça soit derrière moi. Malheureusement, il y a des personnes beaucoup plus fragiles que ça impacte plus. Maintenant, si on doit repenser le monde de demain, je crois qu'il faut juste le créer au jour le jour. Et la manière dont on a pensé l'action du Refettorio, c'est bien sûr en se lançant dans une aventure où il y a bien sûr plus de chances d'échec que de réussite. Parce qu'aucun de nous sait comment le faire. Chacun d'entre nous découvre une autre manière de créer un restaurant solitaire là, dans ce cas-là. Mais en tout cas, l'idée de devoir se réinventer, elle est au centre des questions de demain. Et en fait, c'est déjà aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a commencé avec ça et que moi, je vais continuer dans ma pratique. Comment continuer à lier les gens à travers l'art, sachant qu'on ne peut pas créer de grands rassemblements tout de suite. Voilà, moi, je le vois comme un challenge. En tant qu'artiste, on est toujours limité par certaines contraintes. Alors, on essaye toujours d'aller au-delà de ces contraintes, mais souvent, elles sont bien présentes. Et donc, je vois aussi ce moment qu'on vit dans le monde de la même manière.
Vous avez fait récemment la couverture du Time Magazine, parce que, évidemment, vous êtes un street artiste et vous pouvez pas vous empêcher de créer. Mais récemment, dans une des rues de Paris, vous avez écrit « Retrouver l'espoir ». C'est ça qui nous manque, retrouver l'espoir.
Oui, je pense qu'en fait, l'espoir, il est toujours là, il sommeille en nous, il demande juste qu'à être déclenché. Et c'est vrai que l'art est souvent une magnifique manière de le faire, de le faire éclore en chacun de nous. C'est pour ça que les théâtres, les cinémas, les musées, tout ce qui est lié à la culture et pour lequel on est si fort en France est extrêmement important. Et donc voilà, c'est pas un hasard si Time Magazine a choisi la France pour représenter cette image d'espoir. En tout cas, j'espère qu'elle continuera à circuler.
J.R., l'artiste contemporain qui vous répondait avec ce projet Réfettorio, 4000 repas servis par jour aux plus démunis. Merci Naïma Benchemane et merci à Benoît Léviona qui vous a aidé dans la réalisation de cette interview sur Europe 1.
Merci Naïma. Merci. Europe 1, 18h40. À suivre, Wendy Bouchard.
Deux personnalités qui réclament que la protection animale soit intégrée à la relance du monde d'après. On les écoute dans un instant.
Le grand journal du soir, la suite sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard. Et on va en entendre parler, cette tribune aujourd'hui dans le journal du dimanche, pour intégrer la protection des animaux et de l'environnement à la relance économique.
Dans ce monde qui se dessine pour demain au cœur de cette crise sanitaire, un millier d'organisations de protection animale et des dizaines de personnalités de tous bords se retrouvent sur cette idée. Comme vous, messieurs, Alain Bougrain-Dubourg, président de la LPO, et Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
J'ai choisi à dessein un défenseur des animaux et un politique. Éric Coquerel, en quoi cette crise nous fait réfléchir à l'importance du monde animal ?
Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que très vraisemblablement, et c'est pour ça que je pense que c'est une crise environnementale au sens global du terme, on pense que ce virus, comme d'autres précédemment, vient, j'allais dire, d'un rapport qui n'est pas normal.
Oui.
Entre l'homme et l'animal, c'est-à-dire ça a un lien avec la réduction de la biodiversité, avec l'extinction des espèces, et on peut même penser que c'est la première crise environnementale à échelle planétaire en même temps, de manière chaotique. Donc tout ça nous amène à se dire que si on ne veut pas que celle-ci soit la dernière alerte, ce que j'espère, il faut absolument protéger les animaux, bien sûr, mais aussi protéger l'environnement. On ne peut pas relancer l'activité comme si rien n'était, parce que la prochaine sera malheureusement peut-être pas la bonne, mais justement la mauvaise.
Alain Bougrain-Dubourg, la destruction des habitats, en effet, qui fait le lien entre un rapprochement de ces espèces sauvages et l'homme, et qui explique un certain nombre de ces pandémies. Vous réclamez une relance économique qui intégrerait cette protection des animaux et l'environnement. Quelle forme cela pourrait prendre, Alain ?
Écoutez, d'abord, il faut considérer que le respect du vivant, c'est pas un luxe. C'est une nécessité. Ça relève d'abord du bien-être que ça peut conduire à l'égard de l'homme, mais aussi quelque chose de tout simple qu'on a peut-être perdu de vue, c'est l'éthique. Et vous savez, on a dit ces derniers temps, la nature se venge avec le Covid-19. Je crois que la nature s'exprime tout simplement, et on ne l'avait pas entendu jusqu'alors. Donc il faut l'écouter, et la première chose à faire, avant même d'imaginer l'économie du jour d'après, mettre un terme à ces marchés fantômes terribles qui ont pu filmer à Taïwan, en Chine, au Cameroun, au Bénin, en Amérique du Sud, où il y a une concentration d'animaux arrachés à leur milieu naturel et qui évidemment conduisent à un bouillon de culture favorable aux pandémies comme celles que l'on connaît.
Bien alors sûr, notre
et... oui.
Allez-y Alain, non, parce que ça, j'allais dire, ça c'est la pression et la posture internationale qui est évidemment capitale. Pour ce qui est plus hexagonal ou plus européen, est-ce que vous avez des revendications urgentes et qui pourraient être établies rapidement ?
Écoutez, il faut revisiter nos rapports à l'agriculture, et je sais que même la FNSEA y réfléchit, simplement il faut aller plus vite. Il y a un moment où il faut en finir avec ces mécaniques biologiques qu'on a fabriquées, ces bêtes trop lourdes qui ne tiennent plus sur leurs pattes, ces lapins élevés contre nature dans des élevages industriels qui meurent avant même d'avoir vécu, si j'ose dire, le transport des animaux. Quand vous pensez que actuellement des veaux vont naître en Irlande, passent par la France, sont envoyés aux Pays-Bas pour être engraissés, ils vont vivre 2000 kilomètres pendant plus de 50 heures de transport. Mmh. Et en France, on envoie des animaux au Liban, en Turquie, en Égypte, etc. Est-ce que je vous parle du déterrage qui est odieux, où on capture des blaireaux, des renards dans des conditions inacceptables, de la glu, des animaux dans les cirques, des élevages de visons? Tout ça, on le sait depuis toujours, et il y a un moment où je crois que les politiques, il y en a beaucoup du reste qui prennent conscience de cette réalité, doivent s'emparer de ce que la population, les citoyens ont déjà perçu.
Et oui, bon, et c'est manifeste, être... pardon Alain Bogras-Dubourg, j'aurais donné la parole un instant à Éric Coquerel, c'est manifeste dans cette tribune où les personnalités de tous bords se rejoignent sur cette question, sur cette réforme de la politique agricole commune, sur ce que disait Alain Bogras-Dubourg à l'instant, Éric Coquerel favorisait, et là je parle aux parlementaires, les produits européens et a fortiori français, en particulier pour limiter les transports d'animaux. Ça fait partie de vos revendications.
Oui. Oui, les transports. Alors, la tribune parle bien de la protection des animaux et de l'environnement.
Et de l'environnement.
Je dis ça parce que les deux sont absolument liés. Je veux dire, l'homme s'en sortira pas seul. Voilà, il pourra pas continuer à agir. Et le système, parce que je pense que c'est aussi un système qu'il faut critiquer, qui est le système du tout marché, du profit avant tout, du productivisme avant tout, de la croissance aveugle, il ne pourra pas s'en sortir en pensant que c'est pas très grave que. La moitié des espèces disparaissent autour de lui et que l'environnement devienne insupportable. On le voit bien. Et aujourd'hui, c'est ça qui explose. Alors là, on a eu quelque part ce qui vient de se passer. On l'a vu un peu partout. On l'a relevé du fait que nous soyons confinés. Tout d'un coup, à échelle planétaire, par exemple, en termes de pollution, en termes de CO2, tout d'un coup, on s'est mis à mieux respirer. On l'a vu sur les cartes satellites. Et de même, on a vu que, alors faut pas le généraliser hein, à travers quelques images, enfin, elles étaient parlantes. On a vu des animaux, quelque part, revenir sur des espaces, non pas où on ne les voyait pas, mais où ils n'apparaissaient plus, j'allais dire, parce que l'homme ne leur laissait plus la place. Bon, c'est un moment, faut pas que ce moment privilégié soit une parenthèse et qu'on parte de plus belle après. Voilà. Et donc moi, ce que je crois, c'est que les solutions par rapport à ça, c'est évidemment des solutions réglementaires par rapport à l'agrobusiness, par rapport aussi à la souffrance des animaux, cette souffrance inutile qui a été infligée pendant des siècles aux animaux sans que ça nous préoccupe, alors que le sort que nous faisons quelque part aux animaux dit aussi notre propre humanité. Mais il faut aller plus loin, il faut aller sur l'idée que toute notre économie doit être conduite avec ça en tête. C'est pour ça que, par exemple, nous, on propose une planification écologique, on propose la règle verte, c'est-à-dire de ne plus produire et consommer plus que la Terre ne peut absorber. Voilà.
Merci beaucoup.
La règle, pour nous, doit être proposée.
Merci beaucoup, Éric Coquerel. Voilà, que les politiques s'emparent de ce sujet. Et de plus en plus, Alain Bogras-Dubourg, cela doit auréoler quelque part 50 ans de combat pour tous les défenseurs que vous êtes. Et au cœur de cette tribune, c'est clair.
Pour conclure, et c'est pas moi qui l'ai dit, mais il faut changer le libre-échange par le juste échange. Et on y gagnera. Voilà. Et la loi agriculture alimentation d'octobre 2018 est pour le bien-être animal tout simplement scandaleuse dans la manière dont elle a maîtrisé toutes les avancées potentielles. Donc changeons les choses au plus vite.
Merci beaucoup Alain Bogras-Dubourg, qu'on retrouve également le samedi dans la matinale de Bernard Poirette, président de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, Éric Coquerel, député avec sa tribune dans le JDD à l'initiative de l'organisation CAP Convergence Animaux Politiques que vous pouvez retrouver également en ligne. Merci beaucoup messieurs.
Vous êtes bien sur Europe 1, il est 18h48. Le Conseil national des professions de l'automobile, organisation professionnelle au service des automobilistes, vous présente Tout roule.
Voici Tout roule, le magazine auto d'Europe, hein, chaque dimanche soir avec Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Et demain le déconfinement, n'attendez pas surtout la dernière minute avant de redémarrer votre voiture. Côté nouveauté produit, la nouvelle C4 Citroën bientôt. Et la i20 Hyundai, c'est maintenant. Et c'est peut-être d'ailleurs le moment d'acheter une voiture, tiens.
N'attendez pas demain matin, jour de déconfinement dans votre zone. Vous serez quelques-uns à vous tourner vers votre voiture individuelle. Encore faut-il qu'elle soit en forme, Pierre de Villeneuve.
Oui, soit votre voiture individuelle parce que vous avez l'habitude de la prendre, c'est surtout vrai en région, soit parce que non, les transports en commun, c'est trop contraignant, le covoiturage, vous n'y croyez pas non plus, malgré la recommandation d'une personne co-transportée en plus du conducteur, et que vous allez donc ressortir en effet votre voiture qui dort paisiblement depuis, oula
des mois, des semaines en tout cas, sous la poussière probablement.
Ouais, exactement, et c'est comme avec nous les humains ou avec nos animaux, on peut pas les réveiller au saut du lit, surtout lorsqu'elles ont dormi longtemps, nos voitures, non pas que je fais du sentimentalisme pour les voitures, certains d'entre vous le font, certains leur parlent aussi à leur voiture. En fait, le risque, surtout, c'est...
Ah oui, c'est le coup de la panne.
Ouais, on peut appeler ça une panne. Hein. En fait, une voiture, ce sont des composants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'électronique. Et là, il n'y a pas 36 autres solutions que d'appeler la dépanneuse. Mais si vous avez une voiture qui a l'âge du parc moyen en France, c'est-à-dire 10 ans, Eh ben, il faut y aller en douceur. Donc oui, vous la démarrez, vous voyez bien ce qui se passe, et surtout n'écrasez pas l'accélérateur avant de tourner la clé, sinon vous risquez de la noyer. Pas une fois non plus lorsqu'elle démarre, car là, vous risquez d'abîmer toutes les pièces en métal froid, hein, très très froid. 2 mois sans tourner, c'est long. Il faut laisser l'huile, le circuit de refroidissement, l'essence bien sûr, couler dans les durites, dans les joints, tout ça progressivement. Alors la voiture le fait d'elle-même normalement. Vous pouvez l'aider un petit peu en accélérant, mais de grâce, ne dépassez pas les 2500 ou 3000 tours sur le contour.
Oui, ne serait-ce que pour le respect des voisins. Donc on fait ça la veille, cette remise en conformité.
Alors oui, la veille de préférence, si votre voiture n'a pas bougé depuis le début du confinement ou depuis plus de 2 mois, laissez-la tourner une bonne dizaine de minutes, plus même si vous entendez des ratés dans le moteur. Et le mieux, c'est d'ailleurs de faire un petit tour de pâté de maison.
Et pour le reste, alors ?
Le reste, c'est l'opération nettoyage. C'est pas que esthétique. Les vitres ne doivent pas être obstruées. Les phares non plus. La plaque d'immatriculation non plus. Et s'il y a des fientes de pigeons, alors là, ne tardez pas parce que ça bouffe la carrosserie.
Ben voilà, c'était le Vilno Bricolo ce soir. Hein. Merci pour tous les conseils, monsieur Pierre de Vilno. Sur le fond, des news de l'auto, des nouveautés produits, on vous écoute.
Alors ça y est, on sait que la nouvelle C4 Citroën, c'est pour le 30 juin prochain. Il y aura fort à parier qu'il y aura une version thermique, mais aussi une full électrique. Sur les photos volées en camouflage, on a pu apercevoir un long hayon arrière, rappelant celui de la GS, qui naissait voilà tout juste 50 ans. Chez Hyundai, à défaut de pouvoir la montrer en vrai, on la dévoile sur Internet. Je parle de la nouvelle i20, bourrée de technologies. Toutes ces aides à la conduite de toute dernière génération, ils sont inédits car ils sont homemade chez les Coréens.
Et puis Pierre, c'est un autre effet du Covid-19. Certains manquent de trésorerie et d'autres font des affaires.
Oui, ce sera sans doute votre cas si vous comptez changer de voiture. C'est triste bien sûr pour les distributeurs, mais c'est la réalité. Ils regorgent de stocks sur leur parking et dans une enquête publiée par le CNPA, eh bien, les concessionnaires disposeraient seulement de 45 jours de trésorerie devant eux. Le résultat, c'est une grande braderie en perspective. On s'attend à très grosses remises. Autre possibilité, un décalage de loyer à septembre pour le premier loyer sur le crédit ou une LOA ramenée aux seules mensualités et donc sans apport. Certaines marques ont déjà commencé leur promotion, alors ouvrez l'œil.
Merci Pierre pour ces conseils, ces recommandations et ces projets d'avenir. Tout roule chaque dimanche et demain, on vous retrouve à la présentation d'Europe Midi déconfinée. Pierre de Vilno, merci beaucoup.
Merci Wendy.
Tout roule, c'est avec le CNPA, Conseil National des Professions de l'Automobile. Ce sont 140 000 entreprises et 500 000 professionnels au service des automobilistes et de votre mobilité au quotidien partout en France. Et on va retrouver dans un instant Fabien Lecoeuvre.
Oui, pour une chanson dans la tête à 2 jours des 78 ans de Michel Fugain. Il nous fait revivre sa carrière avec des anecdotes à la clé et un titre né sur notre antenne. À tout de suite.
Wendy Bouchard pour la suite du Grand Journal du soir. C'est l'heure d'une chanson dans la tête, notre rendez-vous culturel et musical sur Europe 1.
Avec notre spécialiste Marlène qui a choisi de saluer ce soir un de nos grands chanteurs à 2 jours de ses 78 ans. Fabien Lecoeuvre nous parle de Michel Fugain. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy et bonsoir à tous.
Et merci de mettre cet artiste à l'honneur, artiste qui est confiné également en Corse hein, pour lui.
Absolument Wendy, à l'île Rousse et qui fêtera justement prochainement son anniversaire, c'est mardi prochain. Et à cette occasion, je vais vous parler aujourd'hui de quelques grands moments de sa carrière et quelques grandes chansons qu'il a créé.
Avec plaisir, en racontant son histoire qui commence en plein conflit mondial, Seconde Guerre mondiale.
Et oui, parce que le père de Michel Fugain, Pierre Fugain, dont un square à Grenoble d'ailleurs porte son nom, a été un très grand résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors communiste convaincu, Pierre Fugain a été mobilisé à 20 ans et a été fait prisonnier par les Allemands. Il a réussi par contre à s'évader du train qui l'emmenait vers un stalag allemand et il est devenu résistant contre le régime de Vichy. Et le 24 mai 1941, il est arrêté pour propagande anti-pétiniste et incarcéré à Fort Barreau, à 40 km de Grenoble, sur la route de Chambéry. Et c'est dans cette prison qu'au mois d'août 1942, écoutez bien Wendy, il reçoit la visite de sa fiancée et conçoit le futur Michel Fugain, qui voit le jour 9 mois plus tard, donc le 12 mai 1942. L'occasion pour Pierre Fugain de bénéficier d'une permission et d'en profiter pour encore s'évader.
Pierre Fugain, le père, résistant et grand médecin. Et c'est dans sa lignée, Fabien Lecoeuvre, pour le satisfaire, hein, que Michel Fugain entreprend lui aussi des études de médecine.
Absolument, Wendy. Et à sa majorité, à 21 ans à l'époque, il annonce à son père qu'il veut devenir réalisateur, sa vraie passion. Donc en septembre 1963, il monte à Paris.
Oui.
Et grâce à une relation familiale qui travaille avec le réalisateur Yves Robert, Michel Fugain est engagé comme assistant sur le film Les Copains. Et le jeune grenoblois s'inscrit ensuite à des cours de comédie où il rencontre d'autres jeunes passionnés comme lui sur les métiers du cinéma. Et parmi eux, il y a un certain Michel Sardou, bien sûr, avec qui Fugain sympathise. Et cette rencontre va totalement bouleverser les projets du jeune Michel Fugain, puisqu'au printemps 1965, le jeune Sardou, qui va passer une audition au disque Barclay, lui demande de lui composer des musiques pour habiller les textes qu'il a écrit. Mmh. Et sur la guitare que lui a offert sa grand-mère, Michel Fugain compose alors ses premières mélodies, dont la chanson Le Madras pour Michel Sardou, qui sera donc son premier 45 tours à Sardou, et qui va permettre à Michel Fugain de changer d'orientation et de se tourner vers la chanson. Et en 1967, sur la guitare, sur cette même guitare de sa grand-mère, il compose une autre mélodie et connaît son premier grand succès avec « Je n'aurai pas le temps » sur un texte de Pierre Delanoë.
Même en courant plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps.
Magnifique chanson, là encore, de Michel Fugain, que vous mettez à l'honneur à deux jours de son anniversaire. Vous, Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française et passionné par l'histoire d'Europe 1. Et il se trouve qu'au printemps 1972, eh bien, il y a un moment fort de sens pour notre radio et pour Michel Fugain.
Tout à fait, Wendy, car ce sont dans les bureaux d'Europe 1, à l'époque rue François 1er à Paris, qu'une grande chanson est créée au printemps 1972. Michel Fugain était venu voir Pierre Delanoë dans son bureau de la radio, où il occupait alors le poste de directeur des programmes.
Oui.
Et comme il était l'heure de déjeuner, Michel avait apporté des sandwichs au saucisson et Delanoë avait ouvert, on va dire, dans son bureau une bonne bouteille. Fan de golf, Delanoë, tout en faisant un pouting de salon, écoute la mélodie que lui a apporté Michel sur une petite cassette et la trouve très bien. Les premiers mots qui lui viennent alors sont « c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui ». Michel Fugain n'aime pas le mot « romance », il trouve ça désuet et démodé. Pourtant, Delanoë insiste et réussit à le convaincre. Finalement, tout en déjeunant, Delanoë écrit complètement le texte de la chanson « Une belle histoire » qui sera terminée à 14h30 précise.
Quel détail, voici un extrait évidemment.
« C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. »
Avant l'été 72, ce 45 tours sort et c'est un grand succès.
Exactement, numéro 1 dans tous les hit-parades de cet été et se vend plus de 800 000 exemplaires. Et on sait que le futur président François Hollande avait acheté ce 45
c'est
tours,
vrai.
C'est sa chanson préférée
vous
en tout cas, de tous les disques qu'il a pu acheter dans son adolescence, on va dire.
Oui, et on ne peut pas parler de la carrière de Michel Fugain qui fête donc ses 78 ans sans le raconter dans son Big Bazar, grande aventure évidemment.
Oui, c'est vrai, parce que le 4 janvier 1972, Michel Fugain lance le Big Bazar, une formation musicale d'artistes basée sur l'esprit hippie et communautaire, post-mai 68, on va dire. Et cette troupe, gérée en coopérative, regroupe des danseurs, des musiciens et des chanteurs qui vivent en communauté et partagent leurs gains. En chantant l'insouciance et la joie de vivre, ils enchaînent les tubes. Et en 1975, sur leur troisième album, on trouve les Acadiens.
Il y a dans le sud de la Louisiane et dans un coin du Canada des tas de gars, des tas de femmes qui chantent dans la même langue que toi. Qui joue de la musique, c'est celle de Rufus Thibaudot. Il rêve encore de l'Amérique qu'avait rêvé leur grand-papa.
Une chanson qui va naître après un séjour au Québec, n'est-ce pas Fabien ?
Exactement, en 1974, où le groupe s'est produit pendant 21 jours à guichet fermé, bien sûr. Et parmi les nombreux spectateurs venus applaudir la troupe française, il y a le chanteur québécois Robert Charlebois.
Bien sûr.
Et un soir, c'est Charlebois qui me l'a raconté, il invite Fugain à dîner. Et lors de la soirée bien arrosée, les deux artistes parlent de la musique acadienne et du célèbre violoniste acadien refuse Thibaudot. Et quelques jours plus tard, dans l'avion qui le ramène en France, Michel Fugain, en se souvenant de son dîner avec Robert Charlebois et de son séjour au Québec, a l'idée de faire une chanson pour rendre hommage aux Acadiens, les descendants des premiers colons français établis en Amérique. Et dans son texte, il fera d'ailleurs référence à ce fameux Rufus Thibaudot, bien sûr.
Qu'on vient d'entendre. Mais écoutez, merci, cette chronique est une fête aussi pour l'homme dont on parle dans deux jours, qui fête donc son anniversaire. On va terminer avec cet hymne justement à la fête. Merci beaucoup Fabien Lecoeuvre pour Michel Fugain, à l'honneur ce soir sur Europe 1.
Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien.
Il est l'heure du journal de 19h. Nous retrouvons Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
19h01, vous écoutez Europe 1.
J'ai hâte, la première chose que j'ai fait, c'était prévoir qui j'allais voir, quand j'allais les voir. Et je suis prête à commencer la semaine et à faire le tour des popotes.
Attente, espoir et quelques inquiétudes. Après 55 jours de confinement, les Français s'apprêtent à retrouver une vie presque normale à partir de demain.
Presque normal, oui. Les Franciliens de retour demain dans les transports en commun. Un immense défi, reconnaît Valérie Pécresse sur Europe 1.
Il faut tout faire pour permettre la reprise sans faire redémarrer l'épidémie. Et c'est un immense défi en Île-de-France.
Les appels à la vigilance se multiplient. Il faut respecter les gestes barrières. Des foyers épidémiques ont été découverts dans plusieurs régions de France.
Et puis les concessions automobiles vont pouvoir rouvrir demain après deux mois de fermeture. C'est tout un secteur économique qui a souffert. Et pour faire venir les clients, eh bien, il faut les rassurer.
Les essais se feront avec le client seul dans le véhicule ayant été automatiquement déjà désinfecté systématiquement.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. On écoute le monde changer. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Sophie Tussaud pour le journal et les Français qui vivent leurs dernières heures de confinement dans les habitations.
Oui, après 55 jours à la maison, il va falloir de nouveau appréhender l'extérieur et adopter de nouveaux gestes. Alors comment se sentent les Français avant cette nouvelle étape? On leur a posé la question.
À la fois, je suis contente de passer à autre chose et à la fois, je suis un peu anxieuse de savoir ce à quoi ça va ressembler. Mais j'ai hâte et la première chose que j'ai fait, c'était imaginer dans ma tête, prévoir qui j'allais voir, quand j'allais les voir et je suis prête à commencer la semaine et à faire le tour des popotes.
Retour au travail, retour à un rythme de vie social existant. Ne pas forcément m'occuper des enfants toute la journée.
Lundi, je reprends mes fonctions de grand-mère. Je vais garder mon petit-fils à Pégomas. C'est un petit village près de Mandelieu. Donc j'ai une cinquantaine de kilomètres à faire et je suis dans le rayon des 100 kilomètres. 55 jours sans l'avoir vu. Bon, heureusement, il y a WhatsApp et les petits messages le soir. Mais c'est pas pareil que de le voir.
Voilà pour ces paroles de Français après 55 jours à la maison qui sont passés plus vite pour certains, plus vite pour moins vite pour d'autres. En tout cas, à partir de demain, les Français vont pouvoir de nouveau sortir de chez eux. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer et qu'est-ce qui va changer, Caroline Baudry?
Eh bien d'abord, il sera possible de sortir sans attestation jusqu'à 100 km à vol d'oiseau ou à l'intérieur de votre département. Pensez à vous munir d'un justificatif de domicile en cas de contrôle, pièce d'identité, chéquier ou facture. Pas question donc de traverser la France, sauf motif impérieux, justifiable, professionnel ou personnel, comme un décès ou l'aide à une personne vulnérable. En Île-de-France, il faudra un justificatif pour prendre les transports en heure de pointe. Autre sésame pour accéder au métro, bus ou tramway, le masque obligatoire dans tous les transports publics en France à partir de 11 ans. Il ne sera pas obligatoire de le porter dans la rue en revanche, mais attention, certaines boutiques et commerces qui rouvrent demain peuvent refuser des clients non masqués. Enfin, la vie sociale pourra reprendre très progressivement. Les petits rassemblements sont autorisés, maximum 10 personnes, et chacun est appelé à garder ses distances, à éviter les embrassades lors de ses retrouvailles familiales et amicales.
Caroline Baudry. Avec le retour au travail, Sophie, une partie des salariés va également emprunter les transports en commun.
Et en région parisienne, ils sont d'ordinaire 5 millions à les utiliser par jour. Un vrai défi, reconnaît Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui appelle de nouveau à poursuivre le télétravail lorsque celui-ci est possible.
Le gouvernement a choisi des contraintes maximum sur les transports en commun. Le port du masque obligatoire, bien évidemment, mais aussi la distanciation sociale. Mais cette distanciation sociale impose de n'emporter que 15% des voyageurs habituels. Ça veut dire clairement que j'appelle tous les Franciliens qui nous écoutent à poursuivre le télétravail au maximum, à limiter au maximum leurs déplacements, y compris en transport en commun, et aussi à étaler leurs heures d'arrivée au travail le matin et le soir. C'est très très important parce que nous renforçons nos chances de pouvoir transporter le maximum de Franciliens qui en ont besoin. Alors il faut tout faire pour permettre la reprise sans faire redémarrer l'épidémie. Et c'est un immense défi en Ile-de-France.
Valérie Pécresse, invitée du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. La présidente de la région Île-de-France indique parallèlement que plus de 18 millions de masques ont déjà été distribués en région parisienne depuis le début de la crise et que 7000 chambres d'hôtel seront mises à disposition s'il faut isoler des personnes infectées.
Dès demain, lundi 11 mai, ce sont les enseignants qui retournent à l'école avant le tour des enfants mardi, en crèche, en maternelle et au primaire. Et toujours beaucoup, beaucoup de questions autour de cette rentrée.
Oui, une rentrée avec des règles sanitaires très strictes. Les parents s'interrogent, les enseignants aussi, surtout sur les conditions dans lesquelles ces enfants vont pouvoir être accueillis. Marion Gauthier.
Dans une crèche à Paris, doudou interdit et câlin à éviter. Le personnel ne peut prendre dans les bras que si un réconfort est vraiment nécessaire. Quand je suis triste ou que j'ai peur, maîtresse trouve plutôt des mots que des gestes pour me consoler, vulgarise aussi une école près de Rennes. Une autre en appelle même à la responsabilité des élèves de primaire. Elle préconise l'autoconfinement personnel pour que soit respectée la distanciation physique. De nouvelles consignes qui semblent difficiles à appliquer, qui dédouanent parfois les enseignants, glisse une institutrice. On a même hésité, dit-elle, à faire signer une décharge aux parents. De quoi les décourager, mais il y a trop d'incertitudes, défend Francette Popineau, co-secrétaire générale du SNUIPP, premier syndicat des enseignants des écoles.
Ce qui se passe, c'est comme cette date est prématurée, le protocole est extrêmement sévère. Si nous avions attendu un peu, peut-être que le protocole aurait été un peu moins lourd. Là, il est très lourd. C'est l'incompréhension, parce qu'on ouvre là où les gestes barrières sont les plus difficiles à appliquer. On n'est pas à l'abri d'écoles qui fermeraient au bout de 2-3 jours parce qu'ils auraient du mal à mettre en place le protocole.
Francette Popineau qui insiste, il faut faire confiance aux professeurs pour alerter les parents si la sécurité de leurs enfants n'est pas assurée.
Marion Gauthier.
Oui, c'est pas simple tout ça et c'est notre dossier du jour, 19h15, l'école anti-coronavirus expliquée aux enfants justement avec une pédiatre, une directrice d'école et la rédactrice en chef adjointe du Petit Quotidien qui publie depuis hier en kiosque son journal avec un dossier consacré à cette école d'un nouveau genre. La vie va de nouveau s'organiser, il faudra vivre avec ce coronavirus mais avec une extrême vigilance évidemment pour éviter une deuxième vague de contamination, Sophie Tussaud.
Plusieurs foyers épidémiques ont été détectés ces derniers jours dans le sud-ouest, en Vendée, en Île-de-France, à Clamart dans les Hauts-de-Seine. Plusieurs cas ont été détectés dans un foyer de travailleurs. Après un premier positif, tous les employés et un certain nombre de résidents ont été testés. 7 résidents étaient positifs, mais aucun ne présentait de symptômes. Abdel Afkir est le directeur de l'association qui gère le foyer de jeunes travailleurs.
Ces 7 résidents sont totalement asymptomatiques. Ils ne manifestent aucun signe qui pouvait alerter sur quoi que ce soit. Tous les résidents ont des chambres individuelles, ont des logements individuels. Les espaces collectifs dans notre résidence ont été réduits à leur minimum pour qu'il n'y ait pas de regroupement possible. Les espaces de loisirs ont été fermés. Et en fait, on est vraiment très surpris par cette situation. Après le déconfinement, je pense que partout où il y aura un test d'ampleur dans des lieux collectifs, je ne serais pas surpris qu'il y ait beaucoup de cas et qu'effectivement le Covid circule beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Donc on est aujourd'hui dans cette phase de recherche du circuit qui a fait qu'à un moment ou à un autre, eh bien écoutez, dans l'établissement, nous avons eu ces cas-là.
Témoignage recueilli par Jean-Jacques Herry. Notez qu'après les cas positifs dans un collège de Chauvigny dans la Vienne, l'ensemble des 71 tests pratiqués sur le personnel scolaire se sont révélés négatifs. Pour stopper la propagation du virus, on voit bien l'importance de pratiquer des tests.
Le gouvernement en a promis 700 000 par semaine contre les 280 000 réalisés actuellement. Alors comment cela va-t-il être possible? Réponse d'Ève Roger sur Europe 1.
La route a été longue et sinueuse, mais selon tous les acteurs de la chaîne, le compte est bon. En première ligne, les 4000 laboratoires d'analyse médicale prêts à faire les prélèvements sur toute personne qui aurait des symptômes ainsi que ses contacts. Et sur la ligne arrière, pour analyser les échantillons, comprenez les prélèvements, une centaine de laboratoires de recherche et de laboratoires vétérinaires sont maintenant opérationnels. Comme toutes les machines ultra performantes venues de Chine et installées dans une vingtaine de CHU en France, c'est le cas à Poitiers où Nicolas Lévesque, responsable du laboratoire laboratoire de virologie vient tout juste de tester avec succès son nouvel automate.
À partir de lundi, on va commencer l'utilisation en conditions réelles de l'automate. Donc on devrait pouvoir faire des dépistages pour environ 1000 prélèvements. On se dit qu'on va avoir une montée très progressive du nombre d'échantillons si jamais cette montée devait survenir. Et ça, on n'en est pas sûr non plus. Et j'espère, il est possible qu'on fasse toute cette mise en place pour très peu de choses au final.
Car c'est bien la seule inconnue, mais elle est de taille. Combien de malades vont se présenter avec des symptômes la semaine prochaine et les suivantes pour se faire tester? Personne, aujourd'hui, n'est en mesure de le savoir.
Ève Roger, notez le bilan de ces dernières 24 heures en France, le plus faible depuis le début du confinement. 70 décès, près de 26 400 au total et le nombre de malades en réanimation continue de baisser.
Le déconfinement qui marque également la réouverture des concessions automobiles.
Là aussi un défi sanitaire avec de nouvelles habitudes à mettre en place et bien sûr un enjeu commercial majeur dans un secteur à l'arrêt depuis près de deux mois. Aurélien Fleureau.
Les essais se feront avec le client seul dans le véhicule ayant été automatiquement déjà désinfecté systématiquement.
Dans le réseau Renault, 600 concessions et plus de 3000 agents, les protocoles sont prêts. Rendez-vous programmé avec les clients, mise en place des gestes barrières. Détail Yvan Segal, le directeur commercial France.
Ça passe par du marquage au sol pour l'ensemble des opérations dès l'arrivée dans la concession. Et puis évidemment, des protocoles extrêmement stricts. Dès qu'une personne a été en contact avec le véhicule, que ça soit par exemple un mécanicien, ou un préparateur de véhicule neuf avant une livraison, toute une checklist des différents points. Alors ça va de points extérieurs comme les portières, différents endroits à l'intérieur de la voiture.
Le détail va même jusqu'à demander aux clients d'apporter leur propre stylo s'il faut signer ou de leur en offrir un tout neuf. Les constructeurs le savent, la reprise de l'activité sera très progressive, mais pour l'accélérer, il faudra un geste rapide de l'État.
Tout ce qui est prime à la conversion va dans le sens d'aider et de faire reprendre le marché. On a un marché qui est aujourd'hui autour de moins 45%. Toute aide du gouvernement nous aidera à diminuer cet effet.
Et chez Renault, l'incitation passera d'abord par un paiement reporté au mois de septembre pour tout achat de véhicules neufs ou d'occasion.
Aurélien Fleureau.
L'école, les transports, les commerces, beaucoup de reprises demain, Sophie.
Oui, y compris celle des paris hippiques sur les courses françaises. Les hippodromes rouvrent leurs portes avec un cahier des charges sanitaires très strict. Les centres équestres pourraient aussi rouvrir, mais là, ce n'est pas encore acté, Axel May.
Oui, les centres équestres espèrent recevoir d'ici demain le feu vert du gouvernement pour rouvrir. Ils sont dans une situation économique très compliquée, plus de public et donc plus de recettes et des charges qui continuent puisqu'il faut bien nourrir les chevaux et les poneys. Ces 6500 établissements répartis sur tout le territoire dépendent de la Fédération française d'équitation qui regrette par ailleurs de ne pas pouvoir reprendre ses compétitions comme s'apprêtent à le faire les courses hippiques qui ont la particularité d'être rattachés au ministère de l'Agriculture et qui brassent beaucoup d'argent à travers les paris. Frédéric Bouix est le délégué général de la Fédération française d'équitation.
Les courses hippiques ont aussi des vrais soucis économiques qui font vivre de nombreux professionnels, toute une filière liée à l'élevage, liée aux courses. Aujourd'hui, effectivement, ils vont pouvoir redémarrer dans des conditions très strictes. On a bon espoir que ces règles puissent aussi être appliquées aux compétitions équestres dès lors qu'elles s'adressent à des professionnels pour éviter cette ségrégation. Les gens ne comprennent pas la séparation entre courses et sports équestres.
Les courses hippiques, elles, doivent donc reprendre dès demain avec des réunions programmées à Paris, Longchamp, Toulouse, Vichy et Compiègne, sans public, en présence uniquement du personnel indispensable et port du masque, y compris pour les jockeys, à qui il est même conseillé de le conserver sur le nez pendant les courses.
Axel May du service des Kazakhs. Oui, ça sera une autre Kazakh. Oui. Vous savez, en ce qui concerne les paris, le PMU ne va d'abord rouvrir qu'une partie de ses points de vente, hein, 5000 sur un total de 13 500. Ceux qui sont bien sûr installés dans les bars restent fermés pour l'instant.
Voilà pour ces précisions au cœur du journal de Sophie Tussaud qu'on retrouve à 19h30 puis à 20h pour l'info. On continue sur Europe 1, merci. On fait le point météo maintenant. Si vous nous rejoignez avec ces 25 départements en alerte orange, orage, pluie, inondation également. Deux départements en alerte rouge, les Landes et la Gironde. Comment évoluent ces fortes précipitations à l'heure où nous parlons, 19h14, Valérie Darmon?
Eh bien, ce soir, ben déjà, le fort épisode pluvio-orageux se maintient près de la Garonne. Il s'intensifie même de la Charente-Maritime à l'Auvergne, puis sur le Roussillon et le Var. Cette nuit, les fortes pluies orageuses continuent de toucher les départements près de la Garonne et particulièrement celui de la Gironde, d'où la vigilance rouge. Les orages vont s'intensifier donc en milieu de nuit. Plus au nord, ceux qui touchaient les départements de la Vendée à l'Auvergne vont s'étendre à la région centre et au Grand Est. Ce lundi matin, les pluies vont faiblir partout, mais elles ne vont pas cesser. Il faudra attendre
attendre ce lundi après-midi pour que s'arrêtent complètement les intempéries. Et puis un mot des températures tout de même, elles vont baisser d'au moins 20 degrés dans l'Est et 10 par exemple à Paris.
Merci Valérie.
Après 2 mois de confinement, ce sera le retour en classe pour certains élèves demain.
Que se passe-t-il dans leur tête alors qu'ils arrivent dans un nouveau monde, celui de l'école anti-coronavirus? Nous avons ce soir pour notre dossier une pédiatre, une directrice d'établissement et la rédactrice en chef adjointe pour le Petit Quotidien pour les enfants âgés de 6 à 10 ans. On vous éclaire ce soir si vous êtes parents notamment. Ne bougez pas.
19h16, la suite du Grand Journal du Soir avec Wendy Bouchard. Vous êtes bien sur Europe 1 et nos interviews éclairent ce monde qui change avec notre dossier sur l'école anti-coronavirus.
Un nouveau monde à appréhender en effet avec ses nouveaux codes à l'école, ses obligations, son protocole, pas toujours simple à expliquer et à imposer en fonction de l'âge des enfants. On en parlait il y a un instant dans le journal. Alors qu'à partir des 12, 13 ou 14 mai, selon les âges, selon les communes, 1 million d'élèves vont reprendre les cours un petit peu partout en France. Pour nous éclairer ce soir, j'accueille le docteur Fabienne Cocher, pédiatre et présidente de l'association de formation professionnelle en pédiatrie, Marie-Hélène Plard, directrice d'école maternelle en Seine-Saint-Denis et co-secrétaire départementale SNUIPP 93, et Pauline Leroy, rédactrice en chef adjointe pour Le Petit Quotidien. Elle s'adresse avec ce journal aux enfants âgés de 6 à 10 ans. Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci de venir vous éclairer chacune dans votre dimension, même si on se retrouve évidemment sur ce sujet avec une pré-rentrée de demain pour les enseignants. Ces élèves qui reprennent donc cette semaine, selon le ministre de l'Éducation. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette réouverture, Marie-Hélène Plard, même si chez vous, ce sera un petit peu plus tard, hein, le 25 mai, en Seine-Saint-Denis. Mais pour tous vos autres collègues que vous représentez ce soir.
Eh bien, écoutez, avec beaucoup d'appréhension et d'anxiété, parce que déjà ça a été une rentrée très précipitée. Même si la date du 11 mai a été annoncée voilà, il y a quelques temps, le protocole sanitaire, les différentes données dont on avait besoin pour travailler ont été connues extrêmement tard. Et de fait, il y a une quinzaine de villes, nous, sur le département, qui débuteront le 14 mai. Mmh. Et c'est très, très, très angoissant pour les collègues. Et ça l'est. Enfin, la mise en place du respect du protocole, qui effectivement a des mesures très drastiques. En plus, je rappelle que nous, on est sur un territoire encore classé rouge où le virus circule beaucoup.
Absolument.
Voilà, donc ça, il y a cette angoisse permanente. Mais dans cette précipitation, les collègues ont aussi le sentiment qu'on oublie les enfants. C'est-à-dire que là, dans les villes où on a eu des maires un peu plus responsables, qui laissent le temps. Voilà, le 18 mai, le 25 mai, voire le 2 juin sur certaines communes, les équipes du coup ont aussi le temps de penser à l'accueil des enfants, pas seulement à l'application du protocole.
Oui, et le problème c'est qu'il y a plusieurs poids, plusieurs mesures, alors il faudra expliquer cela éventuellement aux enfants aussi, Fabienne Cocher, à ceux qui y retourneront, à ceux dont les parents souhaitent qu'ils n'y retournent pas, parce que c'est sur la base du volontariat, je le rappelle. Psychologiquement, vous tenez vraiment cette ligne, Fabienne Cocher, de dire que c'est une bonne chose, après 2 mois de confinement, que ce retour à l'école pour une partie des enfants.
Bonsoir. En tant que pédiatre, je peux vous dire que l'ensemble des pédiatres, que ce soit les pédiatres libéraux, les pédiatres hospitaliers, tous les pédiatres, quel que soit leur mode d'exercice, soutiennent fortement le retour des enfants à l'école. Le Covid-19 n'est pas une pathologie grave de l'enfant. Les enfants ne font pas très peu de formes graves et sont peu contagieux. Les enfants souffrent davantage du confinement que du Covid-19 et il est temps que les enfants puissent sortir de chez eux et reprendre une vie d'enfant. Ce qui est compliqué, c'est la mise en œuvre telle qu'elle est proposée. Et lorsque nous, pédiatres, nous voyons les protocoles imposés aux enfants et aux enseignants pour le retour à l'école, nous trouvons cela maltraitant.
C'est ce que j'allais vous dire.
Un peu contagieux.
On a entendu tout à l'heure ces précisions à la crèche, notamment comment on prépare des enfants de 2 ans à être accueillis avec des masques chirurgicaux, ne pas avoir, sauf cas extrême, un câlin et rester à distance de leur puéricultrice. Je pense vraiment aux plus petits. C'est angoissant pour eux, c'est angoissant pour les parents. Mais Marie-Hélène Plard ne dit pas autre chose que c'est ça parce que on n'a pas eu le temps de le faire. Alors, est-ce que pour cette raison-là, il aurait fallu aussi attendre, de votre point de vue de pédiatre, Fabienne Cocher?
Je pense que les enfants ont besoin de ressortir de chez eux. Mmh. Ce retour à l'école, ce retour dans les modes de garde a probablement été précipité et peut-être pas assez bien expliqué pour les encadrants et est générateur de stress pour l'ensemble des adultes qui accompagnent les enfants, pour les parents, et des parents et des adultes peu rassurants vont stresser les enfants.
Ah,
les enfants sont capables de comprendre beaucoup de choses, mais ils ressentent les émotions des adultes. Si le personnel des écoles, des crèches, a mal compris le protocole, est stressé, si les parents sont stressés à l'idée de remettre leur enfant à l'école, ça ne va pas bien se passer. C'est sûr, j'entends la directrice d'école du 93.
Vous pouvez vous parler, le virus
circule. Oui. Le virus circule toujours beaucoup et nous devons tous respecter les gestes barrières. Ces gestes barrières, pour tenir le virus à distance, ils doivent être respectés en priorité par les adultes. Et dans les écoles, ils doivent être respectés entre adultes.
Mais en fait, vous ne dites pas des choses différentes, Fabienne Cochère. Vous dites à la fois que c'est psychologiquement important de retourner à l'école, et ça, on peut l'entendre complètement, et on pourra parler de mesures de justice sociale. Mais comment on fait dans ce contexte qui, de fait, est angoissant? On pourra tromper les apparences quand on est parent en essayant de faire penser à nos enfants qu'on est très zen. Mais le contexte ne l'est pas, Marie. Hélène Plard, et c'est ce que vous redoutez éventuellement pour le bien-être général.
Ce qui nous inquiète particulièrement, c'est que, alors, évidemment que les enfants veulent retrouver l'école, mais ils veulent retrouver leur école, leur classe, leurs copains, leurs camarades, leurs habitudes, ce collectif-là. Et là, alors moi, il ne me revient pas, je n'ai pas les compétences pour juger ce protocole-là. On me demande de l'appliquer et on engage d'ailleurs ma responsabilité de directrice dans son application. Il est à milieu de ce qu'est une école. Et il y a autre chose qui est effectivement très perturbant pour les enseignants que nous sommes, c'est que là, en l'occurrence, on laisse les trois quarts, voire les sept huitièmes des enfants hors l'école.
Mmh. Voilà. Et comment on fait? Comment on fait justement? Est-ce que l'école va être encore prodiguée à distance pour ceux qui resteront à la maison, qui ne font pas partie de ces élèves qui reviennent?
Alors, ce contact à distance va être continué, il ne s'est pas arrêté. Évidemment qu'on va le continuer. On va peut-être aussi un peu le réinventer, parce que de fait, du déconfinement, des circulations seront peut-être possibles pour venir chercher des documents, des prêts de jeu. Moi, je n'en sais. Enfin, voilà, ça reste à inventer.
Ça veut dire double travail et double classe pour vos professeurs?
Alors, complètement. Ça veut dire qu'à un moment, mais c'est très compliqué pour les enseignants de se dire qu'à un moment, ils ne vont travailler que pour un quart de leurs effectifs.
Bien sûr.
Et l'argument premier de dire c'est une mesure de justice sociale, si vous voulez, comme on est sur un sondage où les parents choisissent ou non de remettre leurs enfants, ce n'est pas forcément les enfants qui ont le plus besoin d'école, voilà, qui ont plus besoin de ce cadre collectif, rassurant, etc., qui sont volontaires. Voilà.
Oui, oui. Pauline Leroy, c'est toute cette école d'un nouveau genre que vous décrivez et que vous racontez aux enfants dans le journal Le Petit Quotidien pour les enfants de 6 à 10 ans qui est sorti notamment hier en kiosque. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et alors là, il a fallu rentrer dans le détail justement pour expliquer cette nouvelle école à vos lecteurs.
Oui, on a essayé de résumer justement un peu le fameux protocole qui est un document de 60 pages pour les enseignants. On a essayé de le rendre lisible et compréhensible pour nos jeunes lecteurs. Donc on a expliqué concrètement ce à quoi allait ressembler l'école dans les semaines à venir pour ceux évidemment qui vont y retourner. Donc on leur a expliqué la préparation des salles, les petites astuces pour mettre à distance les élèves, pour organiser le lavage des mains, pour éviter de partager le matériel. Voilà, le protocole dit que par exemple que les enfants doivent éviter de toucher aux jeux collectifs. C'est une autre façon d'aller à la cantine aussi, voilà. Donc c'est vraiment de la vie quotidienne pour les enfants, et on a essayé de les commencer à les préparer à ça.
Comment on explique, Fabienne Cochère, vous qui êtes pédiatre, aux enfants qui seront présents à l'école, que leurs camarades n'y sont pas pour telle ou telle raison? Comment on leur raconte la situation pour ne pas créer ou de jalousie, ou de tristesse, ou d'inquiétude?
Les enfants sont restés confinés pendant une longue période. On leur a expliqué qu'il fallait rester confiné, qu'il fallait rester chez soi à cause d'une épidémie, qu'il fallait contenir. Il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire que le virus circule toujours, que on peut envisager le retour à l'école avec des précautions qui, pour eux, sont relativement simples à mettre en application, à savoir surtout une hygiène très rigoureuse des mains. C'est-à-dire que les enfants, on me parlait de distanciation, c'est très bien ce que les directeurs d'école ont prévu, un peu de distanciation, chaque élève à sa table, on mélange pas son matériel scolaire, et surtout, il faut une hygiène très rigoureuse des mains. Il faut que les enfants se lavent les mains très très souvent et qu'ils ne se touchent pas le visage. Ça, après, facile, on explique aux enfants que la mise en place de ces mesures-là nécessite que tout le monde s'adapte et que le retour à l'école, il ne va pas pouvoir se faire comme à la rentrée des classes de septembre, mais que ça permet de préparer la future rentrée de septembre. Les enfants, si on leur explique les choses avec calme, avec assurance, s'ils sentent la confiance des adultes dans les événements, dans ce qui se passe, les enfants comprendront.
En disant que leurs parents sont obligés, d'une certaine manière, de reprendre aussi leur travail. Alors, on verra dans un instant si l'enfant est très stressé par la situation.
Alors, si le retour à l'école est uniquement une obligation, c'est un petit peu dommage, je crois. Moi, je vois beaucoup d'enfants
qui ont
parfois envie de retourner à l'école.
Hélas. Oui, oui, non, mais c'est une réalité qu'il ne faut pas écarter. Alors, Marie-Hélène Plard, juste un mot, parce que dans une interview au Journal du Dimanche ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, souhaite que tous les enfants aient pu retrouver, je le cite, au moins une fois leur école d'ici à la fin du mois de mai. C'est possible ? Et comment vous comprenez ce message pour vous, de votre côté ?
Mais si vous voulez, possible, ça veut dire qu'ils viennent tous une journée, une demi-journée, mais c'est contradictoire avec le volontariat. Si vous voulez, qu'à un moment la base est posée, que c'est le libre choix des parents de remettre ou non leurs enfants, on ne pourra pas être dans une contrainte, si vous voulez. Alors, on espère réussir au mieux cette reprise pour que les parents se rassurent. Voilà, parce que très clairement, sur les refus des familles, c'est vraiment l'angoisse qui se manifeste, et voir les actualités génère de l'angoisse. L'apparition dans la Vienne et puis en Dordogne de nouveaux foyers a généré, moi, deux refus de familles qui avaient dit oui pour un retour en mois de mai et qui m'ont recontacté pour dire on attend en juin, on se sent plus prêt. Voilà. Oui. Donc, si vous voulez, on navigue un peu à vue.
Et vous êtes obligé d'accepter ces solutions à la carte. Oui.
Ah, mais on est obligé d'accepter, si vous voulez, notre rôle aussi. Enfin, là, depuis le 13 mars, on est quand même dans une relation assez proche avec les familles téléphoniques, etc. Parce que moi, au niveau de mon école, ça se traduit pas beaucoup par des échanges de mails. Donc, on se parle beaucoup. Donc, voilà, notre rôle, il est aussi d'écouter, d'absorber les angoisses. Voilà, bien ça, sûr. On le fait depuis des mois. C'est pas forcément notre travail, mais ça l'est devenu. Et donc là, on continue. Mais en tant qu'enseignant, on peut pas apporter de garantie sanitaire. Voilà, moi j'ai pas ces compétences-là.
Oui, Pauline Leroy, le petit quotidien pour les enfants âgés de 6 à 10 ans est sorti en kiosque dès hier. Il éclaire les enfants, il éclaire aussi les parents. Vous avez essayé d'établir un double discours justement pour réunir la famille autour de ces questionnements.
On sait très bien que le petit quotidien est lu en famille très souvent sur des sujets comme ça qui concernent la vie quotidienne à la fois des enfants et des parents. On espère bien être lu en famille. Ouais. Je fais juste une remarque, Wendy. Vous avez parlé de kiosque. On est vendu sur abonnement uniquement. Le quotidien n'est pas disponible en kiosque.
D'accord. Bah écoutez,
voilà,
c'est une volonté de ma part.
On a un magazine en kiosque, mais le sujet qu'on a fait par exemple pour présenter les nouvelles règles à l'école n'était réservé pour le coup qu'à nos abonnés. Mais il
vous
est
avez reçu des...
sur notre site internet.
Très bien. Vous avez reçu du courrier de lecteurs, Pauline Leroy,
oui,
s'inquiétant justement sur ces sujets.
On a reçu beaucoup de témoignages, surtout au début du confinement, parce qu'on leur avait demandé à la fois les questions qui se posaient, on leur avait demandé des témoignages sur plusieurs sujets, sur le fait de voir leurs parents travailler devant eux, par exemple, pour les enfants dont les parents étaient en télétravail. On leur a demandé aussi de nous dessiner ou de photographier pour nous montrer leur vie quotidienne pendant le confinement. On a fait un petit concours. On s'est rendu compte qu'ils étaient quand même assez créatifs, qu'en plus du rituel et de la routine de l'école, il se crée aussi plein de moments sympathiques pour supporter le confinement. Voilà, donc Ouais, les enfants, ils ont eu à la fois à comprendre le virus, donc il y avait quand même un sujet scientifique,
oui,
et après
oui.
Il y avait les conséquences sur leur vie quotidienne, donc il y avait beaucoup de choses à leur expliquer en fait, donc oui. Nous en étant un quotidien, on leur a apporté des réponses un peu sur tous ces angles-là, à la fois sur le confinement, à la fois sur la médecine.
Merci. Et sur la médecine et sur l'école anti-coronavirus, oui. Dès mardi et de manière progressive au long de la semaine, du mois de mai et du mois de juin, les collèges ouvrant beaucoup plus tardivement. Merci Pauline Leroy, merci Dr Fabienne Cocher, pédiatre et présidente de l'association de formation professionnelle en pédiatrie, et Marie-Hélène Plard, directrice d'école maternelle en Seine-Saint-Denis et co-secrétaire départementale SNUIPP 93 sur voilà ces questions, ces angoisses, ce déconfinement à l'école qui n'a pas fini de nous faire parler. Merci mesdames.
18h-20h sur Europe 1, c'est le grand journal du soir et c'est à présent l'heure du rappel des titres, Wendy Bouchard.
Sophie Tussaud, on vous écoute.
Un nouveau bilan très encourageant avant le déconfinement demain, 74 morts en France en 24 heures, le plus faible quotidien depuis la mi-mars. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Les appels à la vigilance se multiplient alors que de nouveaux foyers épidémiques sont détectés. Après la Dordogne et la Vienne, une campagne de dépistage est lancée en Vendée où 4 employés d'une entreprise de l'agroalimentaire ont été testés positifs. Le retour d'une partie des enfants à l'école mardi, Jean-Michel Blanquer annonce que 85% des établissements vont rouvrir. Le ministre de l'Éducation espère que tous les enfants seront retournés au moins une fois à l'école d'ici à la fin du mois de mai. L'Espagne entre demain dans une nouvelle période de déconfinement. Seuls Madrid et Barcelone resteront à l'écart de cette phase. Et pendant que l'Europe se déconfine, le spectre d'une deuxième vague de contamination en Asie, un cas de Covid-19 a été détecté à Wuhan en Chine, le premier depuis plus d'un mois. La Corée du Sud voit également le virus ressurgir alors que sa progression était stoppée. Séoul a dû ordonner hier la fermeture des bars et des discothèques. Les conseillers économiques de Donald Trump, rassurants malgré plusieurs cas de coronavirus à la Maison Blanche, ils défendent la possibilité de faire redémarrer le pays en toute sécurité. Et puis le ciel de la France, d'une partie de la France, très agité. La Gironde et les Landes sont en alerte rouge aux pluies inondations. 25 départements du sud-ouest, du centre de l'Île-de-France jusqu'au Vosges sont également placés en vigilance orange.
Sophie Tussaud, retour de l'info à 20h sur Europe 1, merci.
Et dans un instant, le grand débrief de l'actu.
Avec mes invités ce soir, le président de la région Grand Est, Jean Rodner, le député Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, et la journaliste politique, Laetitia Crepa. À tout de suite.
Europe 1. 19h34, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Avec le grand débrief jusqu'à 20h, on refait l'actualité de ces dernières heures avec mes invités mobilisés sur Europe 1. Ce soir, Jean Rodner, président LR de la région Grand Est et médecin urgentiste. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. Et Laetitia Crepa, journaliste et spécialiste de communication politique. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous trois. Et beaucoup Bonsoir. De sujets à la une ce soir avec de nouveaux foyers d'infection ciblés et traités en Dordogne après des obsèques, dans la Vienne après une journée de préparation dans un collège. Qu'est-ce que cela nous dit de la suite des demain, de la doctrine sanitaire sur les gestes barrières, les risques de relâchement et le travail de traçage? Nous reviendrons aussi sur la réouverture des écoles mardi, évoquée à l'instant pour une partie des élèves. Les Français inquiets, comment les politiques sont-ils en mesure de les rassurer? Nous avons 25 minutes ensemble pour échanger. Et d'abord, le retour à l'école, c'était notre sujet il y a un instant pour 1 million d'élèves dès mardi, après la journée de pré-rentrée demain pour les enseignants. Et cette position du gouvernement, un retour à l'école sur la base du volontariat des parents. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan.
Bonsoir.
Qu'est-ce que cette politique vous inspire d'abord sur l'école ?
Sur l'école, moi je ne trouve pas cohérent ce retour à l'école, du moins pour les zones rouges. Je pense qu'il faut un déconfinement, que le déconfinement va dépendre de la manière dont il va s'organiser, c'est-à-dire principalement du port du masque, de la capacité à tester, de la capacité aussi à soigner, en un mot, d'un ensemble de choses, et que dans les pays sérieux, je pense à l'Autriche par exemple, qui a déconfiné en deux temps, d'abord un premier déconfinement pour tester les choses, et puis ensuite les écoles. Moi, je pense que c'est très prématuré, du moins pour la zone rouge. Surtout de commencer d'ailleurs par les primaires, puisque les enfants n'ont pas de gestes barrières, on le sait bien, et qu'il y a une usine à gaz qui est en train de se développer. D'ailleurs, la plupart des parents parents n'enverront pas leurs enfants dans les écoles. Moi, je vois dans ma ville, nous n'avons pas ouvertes. Nous attendrons le 24 mai. Parce que il faut y aller progressivement. Alors, en zone verte, ça peut être différent, puisque le danger semble, si l'on croit les chiffres du ministère, et je n'ai pas de raison de ne pas les croire, beaucoup moins important. Mais encore une fois, est-ce qu'on ne peut pas éviter ce qui serait la pire des choses, c'est-à-dire un système boomerang, un déconfinement au boomerang? Moi, je crois que ce serait la pire des choses pour le pays, sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le plan social. Donc,
Nicolas Dupont-Aignan, oui, en Ile-de-France, en zone rouge d'où vous nous parlez, comme dans la région Grand Est, où l'on vous retrouve, Jean Rottner, pour cette région si exposée au coronavirus, vous auriez souhaité également un déconfinement progressif. Quel est l'état des lieux de cette réouverture des écoles dans votre région rouge ce soir encore?
Bonsoir, Wendy Bouchard.
Bonsoir, monsieur.
Déjà, ce qui m'ennuie un peu, moi, c'est qu'il y a une France rouge et une France verte. J'aurais préféré, à la rigueur, une France vert clair et une France vert un peu plus sombre, un peu plus intense. Il n'y a pas les rouges et les verts. On est tous dans la même équipe, c'est de notre pays, et il est important de faire gagner la France contre cette épidémie. C'est vrai que sur nos territoires, qui ont connu des clusters tout à fait particuliers, singuliers, un taux d'attaque extrêmement fort, des décès. On a tous perdu des amis, des collègues, des connaissances. On a un taux de mortalité qui a doublé d'une année sur l'autre, ne serait-ce que sur le mois de mars dans ma ville à Mulhouse. Oui. Tout cela incite à la prudence. Et pour répondre à votre question, je crois que les élus locaux, les maires, aujourd'hui, incitent aussi dans leurs attitudes, dans leurs décisions, leurs concitoyens à la prudence, y compris dans les écoles. Quand une école n'est pas prête, quand un maire ne peut pas accueillir, eh bien, il ne le fait pas. Je prends l'exemple de ma ville, toujours. Nous n'avons pas décidé de rouvrir demain, mais de demander 8 à 10 jours de temps supplémentaire pour nous préparer correctement, pour travailler avec les parents, avec les enseignants, avec l'éducation nationale. Et quand une école ne présentera pas la certitude d'un maximum de sécurité, eh bien, elle n'ouvrira pas. C'est un engagement que nous avons pris par rapport simplement à nos concitoyens, pour les rassurer, pour leur expliquer. Et on le voit bien encore, les clusters apparaissent aussi. Et il faut que nous continuions naturellement à nous protéger, à tester, à isoler et à surveiller. C'est un mot que l'on oublie assez souvent, mais je pense qu'il faut continuer à surveiller. Et là aussi, la France doit être aux avant-postes.
Nous sommes en situation et en état de veille, vous avez raison de le souligner. Laetitia Krupa, je vous fais réagir à cette nomenclature France verte, France rouge, tout de même, parce que ce sont les cartes que nous avons désormais en tête et quotidiennement exposées. Faut-il au fond réfléchir, comme Jean Rottner vient de le dire, de manière extrêmement locale désormais, et ne plus voir la France comme un pays, mais comme une multitude de communes, plus de 36 000 aujourd'hui, qui justement ajustent et réajustent cette politique quasiment au quotidien?
Oui, bah c'est la volonté du gouvernement, enfin en tout cas de l'exécutif, puisque rappelez-vous, au départ, cette décision d'ouvrir les écoles devait venir d'en haut, et finalement, dans la soirée, l'Élysée avait fait savoir que ce serait sur le volontariat des maires également, puisque vous voyez, là, en l'occurrence, on a deux personnes qui nous disent que les réouvertures des écoles vont être un peu distendues dans le temps. Donc c'est quand même sur la bonne volonté de chaque élu, bien sûr, en lien direct avec les directeurs d'école qui parfois ne sont pas d'accord. Alors ça crée parfois, localement, certains conflits avec des parents d'élèves qui se retrouvent dans un sentiment de peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une communication du gouvernement qui est basée sur une volonté de rouvrir les écoles pour, et ça a été très assumé, relancer aussi l'économie et l'équilibre social du pays est psychologique, puisqu'il y a plusieurs facteurs. On n'est pas juste dans un facteur pédagogique, on l'a tous bien compris. Mais parallèlement, il y a une communication qui se fait aussi des directeurs d'école vers les familles et qui est très anxiogène. C'est-à-dire que souvent, les directeurs d'école, qui sont peut-être informés de façon différente, ne souhaitent pas rouvrir et donc informent les parents dans ce sens. Oui. Alors, les familles se retrouvent en étau entre une communication gouvernementale qui vient d'en haut et une communication horizontale à laquelle, par la force des choses, parfois on fait davantage confiance. Est-ce que c'est raisonnable? Certainement pas. Mais c'est un fait. Donc on est face à des familles qui, pour les deux tiers dans les zones rouges, ne souhaitent pas renvoyer leurs enfants parce qu'elles ont un manque d'informations, un doute et donc de la peur.
Oui, il y a une tension permanente qu'on sent évidemment, Jean Rottner, Nicolas Dupont-Aignan, c'est un virus qui aujourd'hui cohabite avec nous et qui est comme une épée de Damoclès sur chaque geste de notre quotidien. On essaie de savoir comment vous aussi, élu à la veille de ce déconfinement progressif, vous vivez les choses, vous appréhendez les choses. Nicolas Dupont-Aignan, pour commencer.
Mais moi, je crois qu'en fait, on a mal posé le débat dans notre pays, tout simplement parce que notre pays n'était absolument pas prêt. Moi, j'étais l'un des premiers le 27 janvier parce que je connais des gens qui habitent, de la famille qui habite à Hong Kong et j'étais alerté depuis début janvier sur la situation. En vérité, vous apercevez, parce que quand on regarde les chiffres, c'est absolument fascinant et effrayant. Je regardais les chiffres ce soir du nombre de morts par million d'habitants. Ça vaut ce que ça vaut, c'est on prend le nombre de morts, on divise par le nombre de millions d'habitants. En France, on est à 400. À Hong Kong, on est à 0,5. À Singapour, à 3. En Corée, à 5. Au Japon, à 5. Et même dans des pays européens, la Pologne, 21. La Grèce, 14. Et nous, 400. L'Allemagne, 90 seulement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ces pays-là, il n'y a pas eu l'idée « on confine tout le monde » ou « on est déconfiné complètement ». Il y a eu l'idée que face à un virus dont les pays d'Asie avaient l'habitude, parce qu'il y a eu d'autres phénomènes avant, et où des pays européens ont beaucoup mieux réagi que nous, il y avait l'idée que, un, on ferme les frontières, et ils les ont fermées beaucoup plus tôt, et il y a toujours la quarantaine, et je suis scandalisé qu'en France, il n'y ait pas la fermeture de nos frontières européennes, nationales, parce qu'on va réimporter des cas dans notre pays. Deuxièmement, le port du masque obligatoire. Troisièmement, des tests généralisés, même sur des personnes asymptomatiques, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de symptômes. Et quatrièmement, des soins. Donc la question n'est pas confiné ou pas confiné. Le confinement a été la conséquence de notre manque de préparation. Maintenant, le déconfinement n'est pas une fin en soi s'il n'y a pas les moyens. Et en même temps, le confinement ne peut pas durer. Donc on voit bien que la vraie question, c'est le port du masque, c'est la production nationale de masques. C'est par exemple, moi je revendique que le masque soit gratuit. On devrait être remboursé. Pas à 100% pour l'achat des masques, comme un médicament, parce que c'est la meilleure formule pour réussir le confinement. Vous pouvez avoir un lycée qui fonctionne si les lycéens ont un masque. Vous pouvez aller dans une entreprise s'il y a des masques. La question centrale du masque est un changement culturel très important. Et puis la question des tests, moi j'ai encore des EHPAD de l'Essonne qui ont beaucoup de mal à faire tester leurs pensionnaires. On est au béaba. Donc si on n'augmente pas de manière considérable la production des tests, le ministre a montré une carte en vert, ben, j'aimerais bien, parce que même le journal Le Monde disait qu'il y avait beaucoup d'EHPAD qui n'arrivaient pas à se faire tester. Il faut absolument donc rattraper notre retard et le déconfinement sera progressif et se finira totalement quand on aura rattrapé notre retard. Et je vous rappelle que par exemple à Hong Kong ou dans d'autres pays, les écoles ne sont toujours pas ouvertes et pourtant la vie continue et les restaurants sont ouverts, etc. Donc
Nicolas Dupont-Aignan,
il faut éviter les nouveaux clusters.
Les écoles, oui, mais on va pas raconter n'importe quoi, monsieur Dupont-Aignan, pardonnez-moi, mais là les écoles vont rouvrir, c'est les écoles élémentaires et maternelles de façon très progressive. Il y a
c'est un déconfinement progressif, on le rappelle.
Oui. Madame, c'est un très progressif. Le nombre d'élèves qui retournent, excusez-moi, je finis ma phrase, qui retournent à l'école est complètement minime. Les collégiens ne sont pas encore, les lycéens non plus, les universités non plus. Donc ne disons pas non plus déconfinement total avec réouverture des écoles sauvages. Pas du tout, il n'en est pas du tout question.
Attendez. Je vais répondre à madame, je ne dis pas n'importe quoi.
Et ensuite, on fait le point avec Jean Rottner sur le port du masque.
Que des pays qui ont déconfiné depuis un certain temps ont gardé les écoles fermées, et notamment les primaires et les maternelles, parce que les gestes barrières. Donc, la décision du gouvernement de rouvrir les écoles défie le bon sens.
Jean Rottner. C'est tout ce que je dis. Jean Rottner, sur le port du masque obligatoire dans tout l'espace public, je recevais à 18h15 le professeur émérite de médecine Claude Gault, qui relève un certain nombre de lacunes dans la gestion de la crise, et notamment cette affaire des masques, et je ne vous l'apprends pas, messieurs et madame, qui a occupé beaucoup et qui continue de faire parler. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui l'impossibilité du gouvernement, de l'exécutif, de dire aujourd'hui, il faut que le masque soit obligatoire lorsque l'on sort de chez soi pour assurer ce déconfinement et sa réussite.
Ce qui a été dit tout à l'heure sur l'école, sur le rôle des directeurs d'école, les hésitations des parents, ça correspond à quoi? Ça correspond, depuis le début de cette crise, au fait déjà qu'il y ait une prise de conscience collective. Nous étions touchés fortement dans l'Est de la France et en Ile-de-France très rapidement. Et beaucoup de Français n'y ont pas cru, parce que très éloignés de cette réalité-là. Et quand, à un moment donné, dans la presse, je dis « ce que nous vivons ici est terrible », c'est déjà qu'il y ait une acceptation par la France que nous soyons touchés. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est ordre contre ordre, avis contre avis, expert contre expertise. C'est finalement le débat de la France depuis maintenant début mars. Et ça continue dans l'école, et ça continue sur les plages, et ça continue aujourd'hui sur les masques. Et moi, j'ai pris simplement les dispositions ici dans la région pour que sur les tests, nous ne connaissions pas le phénomène que nous avons connu sur les masques, essayer d'en trouver, en commander en urgence, être victime d'une guerre des prix et d'une guerre des pays sur les tarmacs en Chine.
Oui, mais est-ce que le président de région que vous êtes dans le Grand Est, Jean Rottner, peut dire « moi, comme président de région, je souhaite que dans ma région, le port du masque soit obligatoire dans l'espace public ». Est-ce que vous êtes en capacité?
Je le dis depuis le début. Je n'ai pas la possibilité de la poser.
Ce n'est pas
dans mes compétences. Mais comme acteur politique, je le dis. Je l'ai dit au Premier ministre très tôt, en lui disant qu'il fallait protéger celles et ceux qui étaient au front, pas simplement les soignants, mais les caissières, les chauffeurs routiers, les pompiers, les policiers, les agents municipaux qui travaillaient pour la collectivité. Je n'ai pas été entendu ou écouté, ou peut-être que le gouvernement n'avait pas la possibilité à ce moment-là de répondre à cette demande, parce que nous étions en déficit et qu'il y avait un problème simplement de matériel. Je le dis aujourd'hui, je ne souhaite pas connaître sur les tests, que ce soit les tests PCR ou sur la sérologie, la même situation. Je le dis d'autant plus que il y a des grandes entreprises. On a vu la prise de position de Stéphane Richard pour Orange,
patron
de Veolia aussi dernièrement, qui souhaitent offrir la possibilité à leurs employés de se faire tester de manière tout à fait anonyme pour l'entreprise, mais simplement. On ne combattra pas et on ne sécurisera pas les gens si on ne donne pas le maximum de possibilités d'avoir un certain nombre d'indicateurs. Le masque est un indicateur physique. Le test sérologique, c'est de savoir si on a rencontré, oui ou non, la maladie en étant asymptomatique. La PCR qu'il faut répéter, il ne faut pas le faire qu'une fois, il faut répéter de manière régulière au sein de l'entreprise et de manière complètement claire et transparente, de telle manière à ce que l'employeur ne soit pas au courant. Mais tout cela, ça aide, ça nous permet d'avoir une bibliothèque, une encyclopédie de ce virus au niveau de notre pays.
Je trouve regrettable que nous n'y allions pas
beaucoup plus franchement.
Oui, Jean Rottner, vous exprimez à l'instant, Nicolas Dupont-Aignan, dans un petit instant, mais je voudrais faire appel à l'analyse de Laetitia Krupa pour comprendre comment le gouvernement, par exemple cette semaine, n'est pas pris plus de précautions en termes de communication, vous qui êtes aussi à l'affût de tout cela. Des ministres qui se sont succédés au même pupitre à Matignon, pupitre jamais désinfecté entre les prises de parole, sans masque, sans gants, ça vous a fait réagir. La photo de Christophe Castaner dans un EHPAD, sans précaution. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Emmanuel Macron aussi qui met son masque et qui le retire avec les enfants dans la classe. Hein.
Par exemple,
ce sont des images qui ont fait beaucoup réagir. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, c'est des fautes de communication parce que vous savez bien.
Ça fait beaucoup de dégâts dans l'opinion.
Mais évidemment, vous savez bien, Wendy, qu'en communication, le message compte, mais ce qui compte, c'est le non-verbal. Or, ce qu'on voit, ce sont des images qui sont contradictoires avec les messages de sécurité sanitaire de base. Donc, bien sûr que pour le grand public, il y a une dichotomie entre ce pouvoir politique qui est là, normalement, pour incarner la doctrine et pour assurer la sécurité de tous dans une pandémie dont on ne maîtrise pas encore toutes les données. Et vis-à-vis de ça, le Français se dit « que faire ensuite ?» C'est-à-dire que si les élites ne donne pas le bon exemple, la défiance s'installe encore plus, la courbe de confiance n'est toujours pas remontée dans le gouvernement. C'est difficile pour les Français de faire à nouveau confiance. Alors ça creuse à nouveau ce déficit et cette défiance. Et ensuite, pour assurer un déconfinement progressif dans des bonnes conditions, il est difficile pour la parole politique, pour la parole publique, de s'installer de façon durable et crédible. Voilà ce que ça crée. Ça crée ce gap, ce fossé entre les gouvernés et les gouvernants.
Oui, qu'une autre équipe ait fait mieux ou pas, ait réussi à faire mieux ou pas, Nicolas Dupont-Aignan, là n'est pas le problème. On est quasiment dans la réaction au jour le jour sur cette politique. Votre réaction, Nicolas Dupont-Aignan?
Mais écoutez, oui et non. Moi, je comprends qu'il puisse y avoir du retard au départ, mais comme l'a très bien dit le président de la région Grand Est, il suffit de regarder ce qui se fait à l'étranger. Et ce qui est terrible, c'est que notre pays n'ait pas voulu reconnaître même ses erreurs. Moi, je crois qu'on s'inspire toujours de ses erreurs. Et ce que je regrette dans le gouvernement, moi, j'ai été moqué parce que j'avais mis un masque à l'envers début mars. Je l'ai mis à l'envers, oui, bon. Eh bien, j'ai été moqué.
Vous n'avez pas été le seul, cela dit. Hein,
oui, bon. Mais oui, mais si vous voulez, encore il y a quelques jours, on nous offre un masque, c'est très intéressant, à l'entrée de l'Assemblée nationale. Oui. Je mets le masque. J'arrive dans les salons de l'Assemblée. Quelques-uns avaient le masque. On rentre dans l'hémicycle, j'étais seul à le garder. Bien sûr que pour parler, il faut l'enlever, mais je pense que si on ne montre pas l'exemple, si il n'y a pas une cohérence de discours et d'actes, on n'y arrivera jamais. Ce qui est important, c'est d'arrêter l'usine bureaucratique, parce qu'on s'aperçoit, en vérité, et c'est ce qui me frappe le plus, c'est que au lieu d'aller aux choses simples qui sont faites à l'étranger, les masques, les tests, les traitements, les lits de réanimation, on invente des règlements délirants. Il faut voir ce qu'ont reçu les directeurs d'école, 60 pages, complètement ingérables. Ce sont des gens qui n'ont jamais eu un enfant, qui ont pu envoyer ça. Et qui font que ça enferme les Français dans une espèce de complexité, de bureaucratie qui ne marchera pas. Il faut jouer sur la confiance, il faut expliquer que le masque est vital. On ne peut pas le rendre obligatoire dans l'espace public peut-être, mais les gens sont assez intelligents pour savoir que s'ils se promènent en forêt ou sur une plage où il n'y a personne, ils n'ont pas besoin de mettre leur masque, mais qu'en revanche, ils vont dans une rue où il y a du monde, ben, il vaut mieux qu'ils portent leur masque. Il faut que ce masque soit gratuit, je le répète. Il faut que ce masque soit produit en France pour ne pas dépendre des importations chinoises avec les aléas qu'il y a et les difficultés qu'on a. Ça veut dire réquisition d'usines. Je vous donne un exemple. Je lisais aujourd'hui la cellulose de Bretagne qui produisait des couches va enfin produire des masques. Mais on aurait pu le faire il y a 2 mois. Oui. Donc le tout, c'est qu'on ait le sentiment d'un plan cohérent, anticipé et qu'on s'y tienne. Et que quand il y a une erreur de commise, on la reconnaissent plutôt que de dire non, on n'a jamais commis d'erreur. Parce que tout le monde peut commettre des erreurs, en revanche, il ne faut jamais les répéter.
Merci Nicolas Dupont-Aignan, merci à Jean Rottner, président de la région Grand Est, et à Laetitia Krupa pour ce grand débrief de l'actualité sur Europe 1. Merci de votre présence à tous les trois.
Merci beaucoup.
Merci.
Et pour terminer ce grand journal du soir, les temps changent, l'air
les
du
mots
temps.
De François Claus, oui, en conclusion de cette émission, dans l'air du temps du déconfinement. A tout de suite.
19h54, la suite et fin du grand journal du soir avec Wendy Bouchard et François Claus.
3-0 pour le Paris Saint-Germain, c'est une addition terrible pour le Real Madrid.
Beaucoup ont brûlé ou ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes.
We kids shouldn't have to do this.
On est assis sur une poudrière parce que les gens, ils ont peur.
Europe 1, l'air du temps. François Claus.
Les temps changent et vous écoutez Le Monde changer. Plaisir de vous retrouver. Bonsoir François Claus.
Bonsoir Wendy. Et voilà qu'à quelques heures de la libération tant attendue, de la respiration promise, c'est une étrange sensation d'angoisse qui m'étreint. Cette libération qu'on a affublée d'un terme que même mon correcteur d'orthographe ne semble pas reconnaître. Déconfinement. Déconfinement comme s'il fallait encore me signifier que le confinement n'est pas loin, qu'il rôde là à portée d'une canne de toux, d'un postillon ou d'une simple poignée de main. Et cette angoisse, je l'exorcise avec un refrain qui depuis quelques jours m'obsède. J'ai envie de prendre cette main qu'on m'interdit de saisir. Non, je ne veux pas du scénario qui se dessine dans quelques heures. Ce monde où l'on ne verra plus le visage de l'autre masqué. Ce monde où l'on n'aura plus le droit d'embrasser. Ce monde où je ne reverrai peut-être plus jamais mon papa dans un EHPAD sans une vitre de séparation. Ce monde où je lirai la peur dans le regard de l'institutrice qui hésitera à serrer dans ses bras ma petite fille qui pleure dans la cour de récréation. Alors oui, Wendy, j'ai la rage et oui, je veux serrer des mains.
I wanna hold your hand. I wanna hold
Prendre une main tout simplement pour ne pas devenir la machine à simplement travailler et produire que l'on veut faire de moi. Partir au travail masqué le matin sans prendre le moindre café au comptoir. Arriver au bureau sans embrasser mes collègues. Repartir le soir en passant devant des cinémas fermés. Contraint de consommer devant mon écran de télévision sur mon canapé des produits formatés par l'industrie du net. Échanger des balles mais pas de poignée de main sur un court de tennis le week-end. Regarder un match de foot sur un canapé sans entendre le cœur et les cœurs hurler « You'll never walk alone ». Me couvrir les mains de gel pour choisir en moins d'un quart d'heure sur les étals du Livre Écarlate, la librairie préférée de mon quartier, le livre qui me transportera ailleurs. Oui, Wendy, il y a de l'angoisse, il y a de la rage en moi. Je me souviens de notre sidération collective en novembre 2015, après la nuit du Bataclan. Ma colère, deux jours plus tard, en allant prendre un avion bloqué pendant trois heures à l'aéroport pour d'insupportables fouilles au corps, me disant alors « Oui, ils ont gagné ». Mais je me souviens aussi de ma si belle émotion, six jours plus tard, lorsque nous nous sommes retrouvés à l'Alhambra, à quelques dizaines de mètres du Bataclan, pour un magnifique concert de Richard Hawley. Là aussi, nous fûmes fouillés, là aussi, nous attendîmes deux heures, mais cette fois-là, nous ne nous disions pas « ils ont gagné ». Car nous étions ensemble, et être là ensemble, ce soir-là, était une manière d'être vivant et plus fort. Demain, l'angoisse et la rage m'étreigneront, car cette fois-ci, ce satané virus n'a pas fait de l'autre un allié, mais une menace. Alors pour vaincre cette peur, pour retrouver le goût du combat, je me souviens que ce soir-là, sur la scène de l'Alhambra, dix jours après le Bataclan, Richard Hawley nous avait offert une magnifique version de cette chanson que nous reprîmes en chœur et qui confirme que oui, les Beatles, au début des 60s, avaient déjà tout compris. Puissions-nous, Wendy, très vite, la reprendre ensemble en chœur.
Et merci François Claus pour ces mots qui toujours nous font réfléchir en conclusion de ce grand journal. Merci beaucoup François Claus pour ces mains tendues que nous acceptons, du moins virtuellement pour le moment, hélas. Merci François. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis, à Naïma Bencheman pour la programmation de cette émission, à Kevin Ousti à la réalisation, Marlène Duret en studio, déconfinée depuis bien longtemps, mais respectant ses consignes sanitaires.
Le week-end seulement.